Voici l'information qui arrive à grands pas. C'est le journal. Et il est présenté par Christophe Carré. Bonjour Christophe.
Bonjour Pierre.
Les hôpitaux débordés par l'épidémie de grippe, on est au niveau de la canicule de 2003.
Urgence sursaturée, la ministre de la Santé déclenche le plan Orsan, mise à disposition immédiate de tous les moyens disponibles. Le traumatisme d'un père et d'une mère en Haute-Saône, témoignage exceptionnel sur Europe 1. Leur fils, Pierre, 19 ans, est allé se faire exploser en Irak. Une bataille de chiffres sur les autoroutes, elles sont très rentables, mais pas au niveau astronomique qui a été dénoncé. Des amendes beaucoup plus chères pour les fraudeurs, la SNCF dégaine son nouveau plan. La fraude lui coûte chaque année 300 millions d'euros. Un an après le soulèvement en Ukraine, retour en Crimée, annexée par la Russie, nous retrouverons l'envoyé spécial d'Europe 1. La ferveur pro-russe de la population est très durement retombée. Des sacs de sable, des digues rehaussées, trois jours de grande marée démarrent sur la façade ouest. Nous irons dans le Morbihan. Sur tout le littoral, le coefficient sera de 118 sur 120.
Midi 14h, Europe Midi.
Les urgences se retrouvent donc débordées par la grippe. La situation est exceptionnelle et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a déclenché le plan Orsan.
C'est la mise à disposition immédiate de tous les moyens disponibles. L'épidémie a déjà fait plus de 2 millions de malades. Rémi Bossaron, comme rarement, les hôpitaux sont complètement saturés.
Ah oui, du côté des urgences, on parle même d'une sursaturation avec des patients obligés d'attendre sur des brancards parfois plus de 24 heures avant d'être pris en charge ou d'être transférés vers un autre hôpital, parfois très éloigné. Pour Christophe Prudhomme, président de l'Association des médecins urgentistes de France, Marisol Touraine a enfin pris la mesure de la situation.
C'est une situation qui devenait intenable avec une surmortalité pour des patients qui ne sont pas pris en charge de manière adaptée. Si elle ne prenait pas de mesures immédiates, elle risquait de se retrouver dans la même situation que M. Mattei lors de la canicule de 2003. La politique de l'autruche n'était plus de mise.
Alors l'une des conséquences de ce plan Orsan, c'est que depuis hier soir, les hôpitaux appellent les patients qui devaient être hospitalisés aujourd'hui ou demain, ce qu'on appelle les patients programmés, et ils leur demandent de venir plutôt la semaine prochaine ou dans 15 jours. Ça permet de libérer des lits, mais les urgentistes préviennent déjà. C'est une solution de court terme. La situation pourrait de nouveau se dégrader alors que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint.
Rémi Bossaron.
Autre titre de l'actualité, taxer les bénéfices des autoroutes, faire baisser les prix des péages. C'était la grande idée du gouvernement, sauf qu'il y a une petite erreur sur les chiffres.
Les autoroutes, une poule aux œufs d'or, les automobilistes vaches à lait, ça c'est ce qu'on a entendu tout au long du débat sur le tarif des péages. Il fallait remettre les sociétés concessionnaires dans le droit chemin. Ça va se faire, mais beaucoup moins fort que prévu. Et pour cause, Emmanuel Duteil, les chiffres astronomiques de l'autorité de la concurrence qui avait tout déclenché ne sont pas au niveau qu'on les avait présentés.
Oui, la scène s'est passée mercredi soir. À la demande du gouvernement, députés et sénateurs se réunissent chaque semaine pour faire des propositions justement au gouvernement sur la renégociation des contrats. Pour ce faire, un avis, ils consultent, ils auditionnent. Et justement, face à mercredi soir, il y avait le représentant des sociétés d'autoroutes. À l'issue de son audition, la plupart des députés présents sont retournés. Selon un député socialiste, la rentabilité des sociétés d'autoroutes est finalement d'environ 7 à 8%. On est bien loin des 20% annoncés selon le rapport de l'autorité de la concurrence. À droite, on est sur la même ligne. Selon un sénateur, on a confondu bénéfices et rentabilité. Un autre député, pourtant peu acquis lui à la cause des sociétés d'autoroutes, confirme. On croyait être face à une poule aux œufs d'or. C'est finalement une poule, certes dodue, mais relativement normale. Alors attention, pour être précis, les chiffres de l'autorité de la concurrence ne sont pas faux en tant que tel, mais ils ne prennent pas tout en compte.
L'idée de faire baisser les tarifs des péages, Emmanuel, ça va se faire ou pas?
Oui, bien sûr, il va y avoir une réforme des contrats des sociétés d'autoroutes. Au moment où l'on se parle, le plus probable, c'est des hausses de tarifs des péages lissées dans le temps, c'est-à-dire moins importantes que ce qui était prévu par les modes de calcul actuels. Un encadrement des profits, si les sociétés d'autoroutes en font trop, ils seront taxés. Mais si la situation économique est moins bonne, eh bien là, c'est l'État qui devra compenser. Vous aurez également plus de transparence sur les travaux et puis une meilleure régulation. Ça, c'est un point qui est déjà acquis puisqu'il était dans la loi Macron.
Merci Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Et on reparle justement de ces profits, de ces bénéfices, de cette rentabilité des sociétés d'autoroutes avec Mathieu Lessage d'ici 40 minutes. Il est avocat, il assure le recours contre les autoroutes devant le Conseil d'État pour un think tank qui s'appelle Automobile et à venir.
Toujours au sujet de la voiture, les tarifs des parkings ont sérieusement grimpé depuis la loi Hamon il y a un an. C'est une enquête Auto Plus. Les prix doivent être facturés au quart d'heure d'ici le 1er juillet prochain. C'est-à-dire qu'une heure entamée ne devra plus être réglée en totalité. On paiera uniquement le temps exact du stationnement. C'était censé faire baisser les tarifs. Sauf que les exploitants ont fait grimper les prix. À Lille, par exemple, c'était 1,80€ de l'heure. C'est désormais 1€ de plus.
Il est midi 5 dans Europe Midi. La SNCF dégaine son nouveau plan anti-fraude. Le prix des amendes va être beaucoup plus salé.
Le dispositif musclé va s'appliquer à partir du mois de mars. Les fraudeurs vont se faire taper beaucoup plus fort au porte-monnaie. La fraude coûte chaque année 300 millions d'euros à la SNCF. Olivier Samin, la compagnie riposte.
Oui, et la riposte va s'exercer dès le 2 mars prochain, avec d'abord une augmentation des amendes pour les contrevenants. 50€ en plus du prix du billet, en cas de paiement immédiat dans le train, 50€ au lieu de 35 aujourd'hui. 88€ quand le voyageur ne paye pas dans le train et qu'on lui dresse un PV. Et s'il ne paye toujours pas après avoir reçu son PV chez lui, 375€ au bout d'un délai de 2 mois. La SNCF va aussi mettre en place un arsenal plus musclé pour améliorer le taux de recouvrement des amendes grâce aux informations qu'elle pourra désormais obtenir auprès des services de police ou des impôts pour retrouver les fraudeurs qui présentent une fausse carte d'identité. Et puis, troisième mesure choc, sur les lignes où il y a beaucoup de fraudes, des opérations tolérance zéro seront décrétées. Opérations surprise où tous les voyageurs d'un train seront contrôlés grâce à la mise en place d'un périmètre hermétique dans la gare de départ, dans les gares intermédiaires et dans la gare d'arrivée.
Merci Olivier Samin. Depuis le siège de la SNCF pour Europe 1, au sujet des trains, beaucoup de monde dans les gares ce week-end. C'est un chassé-croisé, comme l'ont dit des vacanciers. La zone B démarre ses congés d'hiver, la A les termine et la C entame sa seconde semaine. Sur les routes, cela traduit par une journée orange dans le sens des départs en Ile-de-France. Demain, ce sera orange partout, à la fois pour les départs et pour les retours. Ce sera même noir en Rhône-Alpes et en Auvergne, vers les stations de ski.
Il est midi 7, c'était il y a un an en Ukraine. Le soulèvement du Maïdan, la place Maïdan à Kiev, la chute du gouvernement et un élan de liberté. Un an après, l'espoir est retombé et les combats sont toujours en cours.
Oui, en dépit des accords de paix signés en fin de semaine dernière à Minsk, les séparatistes se sont emparés de la ville stratégique de Debaltsevo. Hier, ils ont mené l'offensive sur Mariupol. L'objectif est de rester dans le giron russe comme la Crimée, tout au sud, annexée il y a un an par Moscou. Sébastien Krebs, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Vous étiez là-bas l'année dernière. La faveur pro-russe initiale de la population n'est plus du tout la même.
Oui, les cadeaux de bienvenue de l'année dernière, lorsque Moscou a doublé les salaires des fonctionnaires et les retraites, ces cadeaux ont vite été oubliés, absorbés par cette flambée des prix, parfois au jour le jour. Le passage au rouble a été très rude. Sur ce marché, cette retraitée, Natalia, achète désormais le strict minimum.
Quand on compare avec l'an dernier, tout est devenu plus cher, même les pommes de terre. J'ai juste pris un peu de lard. La viande, je ne peux plus en acheter, alors dans la soupe, je la remplace par de la graisse de porc.
Tout augmente, ajoute cette mère de famille, depuis qu'on ne trouve plus les produits ukrainiens. 40-60% d'inflation pour certains produits de première nécessité. La Crimée est fermée, isolée. Il faut maintenant tout faire venir de Russie, explique cette commerçante.
Les routes sont coupées, il faut faire venir par bateau. Ça coûte cher et parfois il y a des tempêtes. Et puis les ferries sont débordées, il y a la queue. Pour les gens comme pour les marchandises.
Sans compter que beaucoup de Criméens ont perdu leurs revenus, des entreprises ont fermé, le secteur du tourisme s'est effondré. Tatiana se console en regardant vers l'est de l'Ukraine.
C'est dur, mais Dieu merci, au moins personne ne nous bombarde ici. Ce qui arrive en Ukraine, c'est horrible.
Et puis, dernier élément de comparaison avec l'an dernier, désormais impossible de tourner un reportage librement sur un marché comme celui-ci sans être suivi de près par un agent de sécurité qui écoute les interviews. La liberté d'expression aussi est passée à l'heure de Moscou.
Merci Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 en Crimée. La situation en Ukraine qui est au menu du déjeuner entre François Hollande et Angela Merkel à l'Elysée. Le président et la chancelière vont très certainement aborder également la question de la dette grecque. Une réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe est programmée cet après-midi à Bruxelles. Un accord serait tout proche. 80% du chemin aurait déjà été accompli. C'est en tout cas ce qu'affirme à midi un haut fonctionnaire grec.
Et dans Expliquez-vous, dans quelques instants, l'économiste Paul Larouturou nous expliquera pourquoi il faut continuer à aider les Grecs. Quand je dis nous, c'est l'Europe. La douleur et l'incompréhension de deux parents. Leur fils est parti faire le djihad il y a 19 ans. Il s'appelle Pierre. Il est originaire de Haute-Saône. La semaine dernière, il est allé se faire exploser en Irak. Son père témoigne sur Europe 1. C'est un document exclusif et c'est dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi, Pierre de Villeneuve.
Retour de journal présenté par Christophe Carré, un père et une mère dans la douleur en Haute-Saône. La semaine dernière, leur fils est allé se faire exploser en Irak.
Un attentat suicide qui bouleverse toute sa famille. Pierre avait 19 ans, il s'est très vite radicalisé après sa conversion à l'islam. Ses parents sont anéantis. Arthur Mbaché, vous les avez rencontrés. On a perdu un ange, dit son père.
En fait, on n'arrive pas à imaginer. Un gamin qui fait du vélo, qui joue au foot devant sa maison. Le petit Pierre qui, dans un coin de sa chambre d'enfant, a eu une photo de sa première communion et qui, quelques années plus tard, se fait exploser en Irak, kamikaze de l'État islamique. Jusqu'à ses 17 ans, c'était vraiment, dit son père, un bon petit, un bon gamin.
Puis après, ben voilà, on a vu qu'il s'était converti à l'islam, mais on n'en a jamais parlé parce que lui... a vu que ça ne nous plaisait pas, quoi. Donc, bon, on l'a vu, il s'est laissé pousser le bouc. Au niveau de la nourriture, il était un peu plus strict, vous voyez, au niveau de la viande, au niveau...
Il mangeait plus de porc à la maison ?
Oui, voilà. Donc après, voilà, on le mettait en garde quand même. Il dit, méfie-toi. Donc c'était toujours, mais t'inquiète, t'as une mauvaise image de l'islam. Et puis après, ben, il y a certainement eu un basculement dans quelque chose de plus radical, mais nous, qu'on n'a pas décelé, si vous voulez, parce qu'on n'en parlait pas, parce que lui savait que ça nous faisait du chagrin, et... Bon, voilà, mon épouse a essayé de le joindre, ça répondait pas, on s'inquiétait. Et puis il y avait un mot pour nous dire qu'il était parti aider les Syriens et les Syriennes, et puis il fallait pas s'inquiéter, quoi, qu'il nous aimait, et puis voilà.
Ensuite, 16 mois de rares contacts par mail, des nouvelles qui se veulent rassurantes jusqu'à l'attentat suicide de la semaine dernière dont on ne connaît pas le bilan. On espère, disent ses parents, que Pierre n'a pas tué d'autres gens.
Merci Arthur Mbaché en Haute-Saône pour Europe 1.
Ce sont trois jours de grande marée qui s'annoncent sur tout le littoral. On annonce ce soir un coefficient de 118 sur 120.
Oui, c'est un cycle qui arrive en moyenne tous les 20 ans. Toutes les communes de la façade ouest se préparent, de la Manche jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Des sacs de sable sont en place, les digues sont rehaussées. L'eau va monter très haut, elle redescend aussi très loin. C'est le cas à l'heure actuelle à Damgan, au sud de Vannes, dans le Morbihan. Vous vous trouvez pour Europe 1, Pierre-Baptiste Vanzini.
Où effectivement, on peut se demander où est passé l'océan. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il fait vraiment un temps de chien, une pluie glaciale, un vent permanent. Et il y a quasiment la foule ici. Bastien, par exemple, ne voulait absolument pas louper cette marée.
118, là, c'est vraiment incroyable. On verra pas ça tout de suite. C'est-à-dire que paraît-il que c'est tous les 100 ans. Alors, ça y est, les 71, je ne la reverrai jamais, moi. Ça, c'est sûr. Mais c'est agréable quand même. Quand on voit toutes ces taux, où c'est que ça va? Ça va bien quelque part, ça y a pas à dire. C'est magnifique. Hein. Bon, on n'a pas le beau temps avec tout, mais enfin, on a le cœur à rire déjà. C'est déjà beau.
C'est donc l'heure des pêcheurs à pied. Plus que jamais, comme Bruno, ils sont à la pêche au trésor.
Dès qu'il y a une grande marée, bah, là, on tombe sur des trucs, généralement des bonnes pêches. Ouais. Et puis c'est vrai que des fois, lors des grandes marées, bah, on trouve des vieilles ancres, des vieilles choses en fait. Des choses qu'on ne peut pas découvrir comme ça. Donc ça peut être, effectivement, il y a ce côté-là, je pense que c'est sympa, je crois.
Le trésor.
Le trésor, ouais, tout à fait.
Mais prudence tout de même pendant ces phénomènes exceptionnels. Tous les services de l'État sont mobilisés. Il est conseillé de toujours avoir l'œil sur la montre pour ne pas se laisser surprendre par l'océan en période de grande marée. C'est là qu'il remonte le plus vite.
Merci Pierre-Baptiste Vanzini à Damgan, au sud de Vannes, dans le Morbihan pour Europe 1.
Merci Christophe Carré, on vous retrouve dans une demi-heure pour le point sur l'actualité. La météo, Laurent Cabrol, alors on parle justement de ce littoral menacé.
Oui.
Hein.
Bah oui, nous en parlons depuis plusieurs jours, effectivement, tout se confirme, hein, savoir que nous avons à la fois une perturbation, beaucoup de vents qui viennent du sud, et disons, ces grandes marées qui accentuent encore les phénomènes. Bon, ça va durer quand même une bonne partie de la journée d'aujourd'hui sur une bonne moitié nord. Il faut dire que la perturbation, la zone de pluie et de vent n'a pas vraiment mis la double ou la surmultipliée, comme vous diriez, vous, spécialiste de voiture. Elle est restée quand même très 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 sur la moitié nord, et pour l'instant, elle a tendance à ne pas trop descendre, mais elle va arriver dans le sud, de sorte que demain samedi il y aura de la pluie et de la neige sur l'Alsace, la Franche-Comté, le Mâconnais, la région Rhône-Alpes, le Midi-Pyrénées et le bassin méditerranéen. Ailleurs, ce sera un régime d'averse, notamment sur Paris. Donc la grosse perturbation passera dans l'Est et le Sud demain, et ailleurs nous aurons des averses. Dimanche, les éclaircies vont s'imposer pratiquement partout.
Merci Laurent Cabrol. Et c'est Pierre Laroutureux, puisque Paul est votre fils.
Paul est mon fils et aussi un cousin journaliste. Il y a deux Paul dans la famille.
Ah ben voyez,
moi,
donc
c'est Pierre.
C'est Pierre. Dites-moi, comment dans le contexte actuel, avec la crise que connaissent les Français, on peut encore dire, ben voilà, on va encore aider les Grecs?
Mais il ne s'agit pas d'aider les Grecs.
Ils ont fait beaucoup de bêtises. Les gouvernements grecs ont beaucoup menti en 2001. Ils ont laissé filer la dette. Il n'y avait pas d'impôt sur les armateurs. Donc, il y avait des gros problèmes. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'aujourd'hui, la Grèce est en excédent budgétaire primaire. Ils ont fait des efforts considérables, ils se sont saignés, c'est un vrai martyr.
Alors on va expliquer, parce voilà, que c'est que très technique l'excédent budgétaire primaire.
C'est-à-dire s'il n'y avait pas les frais financiers, si la Grèce pouvait se financer à 0,1%, comme les banques aujourd'hui, quand une banque a besoin d'argent, elle se finance à 0,1%.
C'est-à-dire qu'elle emprunte, de l'argent à 0,1%.
Ou la France emprunte de l'argent à 0,4%. Si la Grèce pouvait se financer au même niveau, elle serait en équilibre, même en excédent. Les marchés lui demandent 9%.
9%.
Vous voyez, donc c'est juste scandaleux. Aujourd'hui, les banques peuvent se financer le matin à 0,1 et l'après-midi, elles font payer 90 fois plus cher à la Grèce sous prétexte que la Grèce est mal notée. Et pourquoi la Grèce est mal notée ? Parce qu'il y a un déficit. Donc vous voyez, c'est le cercle vicieux. Alors que je le répète, ils pouvaient se financer comme la France ou comme les banques, ils seraient en équilibre. Donc oui, ils ont beaucoup déconné, il n'y a pas d'autre mot, ils ont menti. Les gouvernements, pas le peuple, ils ont fait des sacrifices colossaux. C'est quand même, je suis allé à Athènes l'autre jour, vous voyez des rues qui sont désolées, il y a des problèmes d'accès à la santé. C'est un hôpital où il n'y a plus de morphine pour les gens qui sont en fin de vie, c'est quand même dramatique. Donc c'est vraiment un martyr. Et maintenant, avec des années d'efforts, ils sont en équilibre. Il ne s'agit pas de les aider, il s'agit de dire, on va voir comment toute la zone euro peut sortir de la crise. Et après ça, il faut arrêter les blagues. Quand on nous dit que chacun de nous perdrait 700 euros si on refinançait la dette grecque, ni vous ni moi, on a envie de perdre 700 euros, soyons clairs. Donc, même si on aime bien les Grecs,
c'est à peu près ce qu'on dit, hein, c'est le chiffre qui circule.
Oui, mais c'est juste de la blague. C'est juste de la blague. Si on étale la dette grecque ou si on la finance autrement, ça va nous coûter entre 0 et 10 euros. Voilà. Concrètement, ça nous coûtera entre 0 et 10 chaque année.
Sur quoi vous basez-vous? Pour contredire en tout cas ce chiffre de 700-800 et pour dire ce chiffre de 10. Il y a
deux façons de régler ce problème. Soit on fait comme on avait fait pour l'Allemagne en 1953. En 1953, l'Allemagne n'arrivait pas à payer sa dette. On s'est dit, OK, on va diviser par deux la dette de l'Allemagne. Et ça a été juste une opération comptable. Aucun Français, aucun Belge n'a perdu un franc. Voilà. On a juste fait une opération comptable. Une autre façon, c'est de dire que la Banque centrale peut racheter la dette. Aux États-Unis, la Banque centrale a acheté 3 000 milliards de bons du Trésor qui ne seront jamais remboursés. Autant une famille, vous et moi, quand on s'endette pour acheter un appartement, moi je suis endetté pendant 15 ans et tous les mois je dois rembourser. Une famille, évidemment, doit rembourser, une PME doit rembourser. Mais un État, l'Allemagne n'a pas remboursé la moitié de sa dette, on n'en est pas mort. Et aux États-Unis, la Banque centrale a créé 3 000 milliards à partir de rien, 3 000 milliards, et ils ont mis au frigo la dette d'Obama, la dette de Clinton. Elle est au frigo, elle ne sera jamais remboursée, et il n'y a aucun Américain qui a perdu de l'argent. Donc là,
ça, c'est contestable parce que le système américain n'est pas le système de la BCE.
Si ce n'est que depuis, vous en avez parlé l'autre jour dans sur Europe 1, Mario Draghi vient de dire qu'il allait créer 1 200 milliards. Bah, c'est nouveau.
Mais d'ailleurs, ça a surpris tout le monde, vous le savez.
Oui, mais c'est fait. Oui, mais moyennant quoi, c'est fait. Ouais. Est-ce que ces 1 200 milliards vont servir encore pour le 28e plan d'aide aux banques qui n'en ont plus besoin? Ou est-ce qu'une partie de ces 1 200 milliards peut servir pour mettre au frigo de la dette grecque, mais aussi de la dette française ou de la dette espagnole? Donc, n'ayons pas de blague, ou bien ça nous coûtera 0 euro. Oui. Comme quand l'Allemagne a divisé par deux sa dette, ou bien on aura une opération comptable, on paiera les frais financiers, ce sera 10 euros chaque année pour chaque Français.
Pierre Larouturou, vous expliquez devant les Français qui sont là, en studio et au téléphone, et qui vous interrogent, mademoiselle.
Oui, bonjour. Pour moi, la crise grecque montre clairement les limites de l'Union européenne, notamment sur la question de l'homogénéisation. C'est complètement impossible de continuer de la même manière avec un tel schéma financier, avec un tel principe, de tels principes financiers qui s'exerce au sein de l'Union européenne.
Oui, c'est pour ça que ce que dit Tsipras est intéressant quand il dit que les problèmes sont énormes, explosifs en Grèce, mais ça concerne tout le monde. Est-ce qu'on est capable de changer l'euro de l'Europe? On est des millions à se dire il faut continuer l'Europe. Moi, en tout cas, nouvelle donne, on n'a pas envie de tout faire exploser. Si on fait exploser l'Europe, c'est les États-Unis et la Chine qui seront les seules puissances mondiales. Mais l'Europe telle qu'elle est, elle ne fonctionne pas. Par exemple, juste un exemple, il y a un dumping fiscal qui appauvrit tous les États. Depuis que l'Irlande est rentrée, tous les pays baissent leurs impôts pour que les entreprises viennent chez eux et pas chez le voisin. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le taux d'impôt sur les bénéfices en Europe est tombé à 25% seulement, 25%, alors qu'aux États-Unis, il est à 40%. C'est le monde à l'envers. On croyait que les États-Unis étaient un pays plus libéral que nous, mais l'impôt sur les bénéfices est beaucoup plus important, 40% aux États-Unis, tandis seulement 25%. Et là, Manuel Valls dit qu'il faut encore le baisser. Est-ce qu'on va tous encore baisser l'impôt sur les bénéfices ou est-ce qu'on va plutôt faire un impôt européen sur les bénéfices, ce qui fait qu'au lieu de bloquer les retraites, au lieu de faire de l'austérité, au lieu de dire qu'il n'y a pas d'argent pour le CNRS ou la recherche, on aurait, comme aux États-Unis, un impôt fédéral sur les bénéfices. Donc la situation en Grèce est explosive et il y a une souffrance des personnes et du peuple énorme. Mais dans tous nos pays, on aspire à, je crois que la plupart d'entre nous, on veut changer l'Europe sans tout faire péter. Donc il faut qu'on prenne 6 mois pour dire qu'est-ce qui marche en Europe. Sur les 1 000 milliards, est-ce qu'ils vont, que la Banque centrale va créer? Elle va en créer 1200 milliards. Oui. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que 200 milliards pour aider la Grèce et les 1000 milliards devraient aider tous les peuples. Est-ce que ces 1000 milliards vont aller encore aux banques, pour le 52e plan d'aide aux banques, ou est-ce que ces 1000 milliards vont nous aider tous à faire des travaux d'isolation des bâtiments? L'autre jour, vous avez parlé du problème du climat, ça devient explosif. Et en même temps, nos dépenses d'énergie, on paye tous 1000 euros de... Pardon, je finis là-dessus. C'est très important. Mario Draghi a décidé de mettre 1000 milliards sur la table. Est-ce que ces 1 000 milliards vont au marché financier ou est-ce qu'ils vont dans l'économie réelle pour que les entreprises du bâtiment puissent embaucher? On pourrait créer 200 000 emplois en France. L'idée de Nouvelle Donne, c'est-à-dire que Nouvelle Donne dit que ces 1 000 milliards, on doit les mettre sur un plan climat-énergie et que chaque pays, la France, aurait chaque année de quoi embaucher 200 000 personnes pour isoler les maisons, isoler les appartements. Et on créerait 200 000 emplois et on ferait des économies sur nos dépenses de chauffage.
Donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'Europe des banques.
Oui, aujourd'hui, c'est le marché financier.
À chaque fois qu'on sort de l'argent, c'est pour aider les banques.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'être d'accord à 100%.
Qui prête à 9% aux Grecs.
Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'être d'accord à 100% avec le programme de Syriza, mais pour comprendre que c'est un enjeu fondamental. Mmh. Est-ce que c'est encore les marchés financiers qui vont gagner ou est-ce que c'est la justice sociale? Oui, il y a des bêtises qui ont été faites par les gouvernements grecs il y a 10 ans. Oui, il faut que les armateurs payent des impôts. Il faut que les églises payent des impôts. Oui, il faut mettre en place une vraie fiscalité. Mais est-ce que globalement, on respecte le choix des peuples et est-ce qu'on met en place plus de justice sociale? Et est-ce que la création monétaire, quand la Banque centrale va créer 1000 milliards, c'est colossal? Est-ce que ça va nous être utile? Vous et moi, on pourrait tous économiser 1000 euros sur nos dépenses de chauffage. Je le répète, si on prend au sérieux la question du climat et si les 1000 milliards sont mis au service pour créer des emplois en France, en Allemagne, en Belgique, en Grèce, dans tous nos pays, on pourrait créer des emplois pour isoler nos immeubles, isoler nos mairies, isoler nos usines. Ça crée...
Mais ça ne sera pas fait, vous le savez.
Ah ben attendez, Nouvelle Donne se bat là-dessus. On va lancer une initiative. Avec
certainement,
des
mais ça ne sera pas fait, vous le savez.
Mais écoutez, vous n'en savez rien. Pardon, la taxe Tobin, il y a quand même des choses qui bougent. Il y a 3 ans, si vous m'aviez invité, vous n'auriez pas pensé qu'on allait mettre en place une taxe Tobin. Et là, il y a 10 pays, y compris Angela Merkel. Angela Merkel a changé d'avis. Il y a 3 ans, elle a expliqué que la taxe Tobin, c'était un truc de gauchiste. Et là, elle a dit oui, on pourrait prendre une petite taxe. Et la taxe Tobin, c'est 0,1% sur toutes les transactions financières. Et paradoxalement, c'est Michel Sapin qui bloque. C'est quand même étonnant de voir que c'est les socialistes français qui bloquent, alors que même Angela Merkel dit qu'il faut une taxe Tobin. Les Anglais sont furieux, les banquiers sont furieux. Mais ça y est, il y a 10 pays qui ont dit on met en place une taxe Tobin. Donc ce que dit Nouvelle Donne, c'est qu'on ne redémarrera pas l'Europe à 28. Sans doute, on allait trop vite vers l'élargissement et ça devient n'importe quoi. Mais est-ce qu'avec 9 ou 10 pays, est-ce qu'on peut redémarrer une Europe qui a un vrai projet démocratique et un vrai projet social?
Pierre Larouturou est l'invité d'Expliquez-vous et vous continuez à l'appeler au 3921. On va prendre un appel du Bas-Rhin juste après la pause. À tout de suite.
Europe Midi. Europe Midi. Expliquez-vous.
Pierre Larouturou, l'économiste, est avec nous pour essayer d'y voir plus clair sur cette dette grecque et comment est-ce que l'Europe devrait continuer à aider les Grecs. Et c'est Grégory qui nous appelle de Schiltingheim dans le Bas-Rhin. Bonjour Grégory.
Bonjour.
On vous écoute.
Bah écoutez, moi je dirais que aider la Grèce, je veux bien, mais je veux dire au bout d'un moment, si le nouveau ministre grec veut renégocier et demande du temps, non, je veux dire, ils ont fait des bêtises, il faut qu'ils remboursent et il faut qu'ils fassent ce que l'Europe veut, point barre, je veux dire, si après ils sont pas d'accord, qu'ils sortent de l'Europe, quoi. Même si c'est pas une bonne chose, je veux dire, voilà, quoi.
Merci Grégory de votre point de vue, Pierre Larouturou. Sortir la Grèce de l'Europe?
Mais sortir la Grèce de l'Europe ne réglerait aucun problème, ni pour la Grèce, ni pour la France, ni pour l'Europe.
Parce que si est-ce la Grèce... que ce serait mauvais pour le reste des pays européens?
C'est-à-dire que
parce que les Grèce, gens regardent leur nombril, c'est comme ça.
Je vous ai dit il y a 10 minutes que la Grèce, ils ont bien déconné, ils ont menti. Les gouvernements, pas le peuple, ils ont menti, ils n'ont pas mis en place de fiscalité, il y a une évasion fiscale terrible, ok. Mais juste depuis 5 ans, ils ont fait des efforts colossaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, s'ils pouvaient se financer comme la France à 0,1, ils seraient dans une meilleure situation que nous.
Mais ça, on a compris.
Ok, mais donc ça veut dire
qu'il faut sortir la Grèce de l'Europe.
Mais non, ça ne réglerait aucun problème parce qu'ils seraient attaqués par les marchés financiers et donc ils auraient encore plus de mal à nous rembourser. Donc les gens qui s'inquiètent sur comment est-ce que la Grèce va rembourser la France ou l'Allemagne, si la Grèce sort de la zone euro, elle aura des frais financiers, donc elle sera encore plus en difficulté. Et après ça, les marchés financiers vont attaquer l'Espagne. Ça veut dire que c'est tout le sud de l'Europe qui va retomber en récession. Donc faut être naïf pour croire que ça ne réglerait aucun problème. Peut-être qu'on a eu tort de faire entrer la Grèce trop vite. On a eu sans doute tort de se mentir. Non, mais attendez, Eurostat avait dit en 2001 que les chiffres étaient faux. Et les gouvernements, aussi bien allemands que français, ont dit « c'est pas grave, on laisse ». Donc, il faut peut-être voir le rôle des agences de notation, comment les gouvernements ont préféré regarder ailleurs. Mais cela dit, continuer à faire souffrir le peuple grec n'apporte rien. Et par contre, il faut voir comment on peut redémarrer l'activité en France pendant la pause. Non, mais il ne s'agit pas seulement d'aider la Grèce, il faut aussi aider la France. Est-ce qu'on sort la France de l'austérité? Est-ce qu'on
est
capable
ma question, et vous n'y avez pas répondu, c'est Pierre Larouturou. Si on sort la Grèce de l'Europe, combien ça nous coûte à nous?
Personne ne peut le dire.
C'est entre 0 à 10 euros, ce que vous disiez
oui,
tout à l'heure.
Oui, mais non, il y a un choc financier. On ne sait pas, parce qu'après ça, si c'est l'Espagne qui est attaquée, d'abord, si, ça ne réglerait aucun problème. Si
le mais problème dans l'immédiat, ça ne nous coûte rien. Ça,
de même que la dette grecque aujourd'hui ne nous coûte rien, sur l'aspect comptable, ça ne nous coûterait rien. Mmh. Mais si la suivante, c'est l'Espagne qui est attaquée.
D'accord.
Et si tout, non, mais ça veut dire que toute la zone euro peut retomber en récession. Et ça veut dire que les banques françaises ont prêté à l'Espagne et à d'autres. Et ça veut dire que les banques françaises arriveront avec des dizaines de milliards de pertes.
Monsieur, que je sens
bonjour,
un peu exaspéré
monsieur.
Depuis tout à l'heure.
Écoutez, moi. J'ai quand même un certain avis là-dessus, et je pense que c'est l'avis un peu de beaucoup. Vous faites un très beau discours, c'est vrai, formidable, extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez une entreprise, mais quand on a un crédit, on le paye. Alors, la Grèce, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, et je reprends votre propre terme, ils ont fait des conneries. Oui, ils ont fait des conneries. La première, c'est d'avoir menti. Parce qu'ils ont tronqué leur compte. La deuxième, c'est que l'Europe est coupable aussi. Parce que l'Europe les a fait rentrer alors qu'on pouvait attendre peut-être 3, 4 ou 5 ans de plus. Et puis, si on vous écoute, alors tous les pays qui sont derrière, Monsieur Draghi, Mario Draghi, qui fait des efforts colossaux pour l'Italie, c'est une rigueur extraordinaire. Est-ce que ces gens-là ne seront pas tentés, comme l'Espagne, qui font des gros efforts, de dire « Ben non, on ne paye plus notre dette ». Alors là, c'est trop facile. On ne paye pas la dette. Mmh. C'est facile. Pardon, alors, qu'on ait un échéancier, je suis d'accord. On peut aussi avoir un échéancier et dire « Ben voilà, on va essayer de vous aider ». Il n'est pas question d'asphyxier le peuple. Hein. Mais, je dis... il faut quand même payer ses dettes. Mmh. Je suis désolé.
Je répète, si le peuple a voté pour un nouveau gouvernement, c'est parce qu'ils en avaient marre des gouvernements précédents qui avaient menti au peuple et à l'Europe, qui avaient laissé plein de gens les plus riches qui ne payaient aucun impôt, les armateurs, voilà. Donc simplement, est-ce qu'on leur permet de tourner la page et encore une fois, je ne vous propose pas de leur faire un cadeau. Je vous propose juste de dire que la Grèce doit pouvoir se financer comme la France à 0,4%. Est-ce que vous trouvez normal...
Mais ça c'est, il faut dire ça aux banques.
Mais oui, c'est ça. Sinon, la France pourrait dire, la Banque centrale n'a pas le droit de prêter directement à la Grèce ou à la France, mais la Banque centrale européenne, avec ses 1200 milliards, peut très bien prêter à une banque qui va racheter les dettes de la Grèce. Donc, il ne s'agit pas de faire des cadeaux. Arrêtons les blagues. Ils ont fait des sacrifices depuis 5 ans.
Il n'est pas question de faire des cadeaux.
Est-ce qu'ils ont le droit d'être financés si la Grèce se finance à 0,4%?
Non, mais monsieur, à vous entendre, allez, on raille. Comme on l'a fait pour l'Allemagne en 1952. D'ailleurs, l'époque n'était pas la même. Hein. C'était un peu différent. Et puis, vous nous parlez que les précédents gouvernements grecs avaient menti. Mais celui-là aussi, il a menti. Parce qu'il a dit, vous inquiétez pas, on va vous promettre. La première chose qu'ils ont fait, ils ont rembauché des fonctionnaires. Ils ont, promis des choses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Donc, c'est valable pour tout le monde. On ne promet pas quand on ne peut pas tenir.
Je suis allé en Grèce et je me suis rendu compte il y a 2 semaines que même le patronat grec dit que la baisse du salaire était trop forte et que c'est ça qui fout en l'air la consommation. J'ai été étonné. J'ai parlé à quelqu'un qui maintenant est devenu ministre et je lui dis quand même, votre idée d'augmenter le SMIC comme ça, c'est peut-être un peu fort. Il me dit, mais tu sais, même le patronat, les patrons de PME, les artisans disent qu'il n'y a plus de clients quand on a baissé les salaires de tout le monde de moins 20%. Voilà. Est-ce que vous pensez que pour relancer l'activité, baisser les salaires de tout le monde pour avoir plus de clients, voilà. Et moi, je ne pense pas qu'en baissant les salaires de tout le monde, on aura plus de clients. Donc, il faut mettre un peu de sérénité. Les gouvernements ont déconné il y a 10 ans. Mmh. Depuis 6 ans, le peuple a fait des efforts colossaux. Donc, ils sont revenus, je répète, en excédent budgétaire primaire. Il s'agit juste de leur permettre de se financer, d'enlever le garrot. Est-ce qu'on leur permet de respirer, de se financer comme les autres pays? Et après ça, de redémarrer l'activité, de mettre en place des impôts. Ouais. Peut-être qu'on peut les aider pour mettre en place des vrais impôts pour lutter contre l'évasion. Mais est-ce que toute la France lutte contre l'évasion fiscale? Est-ce que toute l'Europe? Moi, j'en ai marre de voir qu'aux États-Unis, Obama veut créer un impôt de 16% pour toutes les grandes entreprises qui ne payent pas, qui vont vers les paradis fiscaux. Obama a fait une loi qui interdit le secret fiscal, le secret bancaire, il n'y a plus aucun secret bancaire. Donc Obama, aux États-Unis, a tenu bon face aux banques. Et qu'en Europe, on continue à faire des beaux discours sur les paradis fiscaux, mais on ne fait rien de costaud. Donc ce n'est pas juste le problème de la Grèce. En Grèce, c'est caricatural. Parce qu'ils n'ont pas de vraie fiscalité, parce que les armateurs ne payent pas. Mais dans toute l'Europe, est-ce qu'on continue à faire de l'austérité?
Monsieur,
vous êtes retraité. Est-ce qu'on va continuer à bloquer les retraites? Il y a la moitié des retraités en France qui vont perdre du pouvoir d'achat cette année. Est-ce qu'on continue à diviser par deux les recrutements du CNRS? Ou est-ce qu'on, dans toute l'Europe, on lutte contre les paradis fiscaux et contre le dumping fiscal? La question de la Grèce, elle s'adresse à tout le monde.
Il y a beaucoup de coups de fil au 3921 et c'est Pierre qui nous appelle de Saint-Martin-d'Hères en Isère. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Merci de m'accueillir.
Bonjour à vos invités.
Volontiers. On vous écoute.
Alors, oui. Alors moi, j'ai un avis, bien sûr, pas tout à fait personnel. Je m'inspire aussi de l'avis de certains économistes. Et en lisant Céline Antonin, qui est prévisionniste de l'OFCE, je trouve qu'elle a un discours assez sage en anticipant le fait qu'effectivement la Grèce ne doit pas sortir de l'euro, qui créerait plutôt un appel d'air important sur d'autres pays, notamment comme l'Italie, qui emboîterait le pas parce qu'ils sont pas non plus très brillants. Donc je crois que on irait vers le plus grave en excluant la Grèce. Et vous connaissez le proverbe de la force de la chaîne qui est proportionnelle à la force du plus faible de ses maillons. Donc si on soigne les maillons faibles dans une communauté, qu'elle soit européenne ou autre, eh bien, on soigne l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a une véritable santé économique qu'on peut développer par la solidarité. Et comme on peut vraiment dire que depuis pas mal d'années, c'est l'économie qui prime, c'est la finance qui prime, on mettrait aussi un petit peu d'humanité dans ce monde de finance et on redonnerait des valeurs également sur cet humanisme économique qui a perdu un petit peu de son âme. Donc, alors bien entendu, ça n'empêche pas que les Grecs doivent continuer à faire des efforts, et je crois qu'ils le font depuis quelques années, un travail extraordinaire de vérification et puis d'auto-correction de leurs erreurs. Mais je crois que l'Europe, sans être tutelle de la Grèce, le Conseil européen devrait un petit peu les coacher, les aider. Pourquoi pas envoyer de temps en temps des émissaires pour les aider, les encadrer, un peu comme des coachs le font dans des entreprises.
Des conseils et un discours altruiste auquel vous adhérez, Pierre Larouturure ?
Oui, et puis il faut effectivement desserrer les contraintes. Il n'y a pas de raison de leur imposer des boulets qu'on n'impose pas à d'autres pays. Il faut les aider à redémarrer comme tous les pays d'Europe si on veut éviter la récession. Et après ça, il faut sans doute les aider pour construire effectivement un vrai service de fiscalité. C'est pas normal qu'il y ait autant d'évasion. Il faut sans doute les aider, mais ça veut dire leur donner du temps. Mmh. Il faut qu'ils puissent embaucher des fonctionnaires, des impôts. Et puis on peut peut-être les aider. L'ensemble de l'Europe peut les aider pour mettre en place une vraie fiscalité.
Une dernière question pour vous, monsieur.
Monsieur disait que les chiffres étaient faux, mais pour que ces chiffres soient faux, il faut aussi souligner quand même que les dirigeants grecs ont été très soutenus pour truquer les chiffres par les banques, certaines banques américaines qui ont disparu de la circulation depuis.
Et vous avez raison, donc les banques sont vraiment fautives, elles tout se sont goinfrées là-dessus, et les gouvernements européens ont fermé les yeux en 2001. Donc il y a une responsabilité collective.
Et les yeux en se disant, ça passera.
Oui, parce qu'il y en a d'autres gouvernements qui ont un peu maquillé leurs chiffres, hélas. Ouais. Donc il faut tous qu'on se remette en cause. Et peut-être qu'il faut arrêter avec les agences de notation privées. Une nouvelle donne propose qu'il y ait une agence de notation européenne. Parce que ça passe ceux qui sont.
On arrête Moody's et Fitch.
Oui, qui ont intérêt. Ouais. Ils sont souvent liés aux banques.
Et vous illustriez tout à l'heure des progrès possibles avec la taxe Tobin, qui a fait son petit bonhomme de chemin, mais elle a mis 10 ou 12 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en 6 mois, et vu la situation d'urgence, les choses peuvent évoluer rapidement pour un peuple qui est étranglé, quoi?
Oui, je pense qu'on est dans un moment crucial et que j'espère que oui, et c'est pour ça que nous, on les aide. On a un ami qui est devenu ministre dans l'équipe de Tsipras, on leur donne des idées pour voir comment on peut débloquer la négociation et bien expliquer que c'est l'ensemble des peuples, y compris les salariés allemands qui en ont marre de l'austérité. C'est en Allemagne que les salaires ont le plus baissé. C'est en Allemagne aussi, les infirmiers et les infirmières parfois sont en grève parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc en Allemagne, le patronat explique qu'il y a des centaines de ponts qui ne sont plus entretenus. C'est très bien l'austérité, mais même en Allemagne, les entreprises disent qu'il y a des routes qui ne sont plus entretenues, il y a des ponts qui ne sont plus entretenus. Donc est-ce que toute l'Europe va continuer avec cette austérité ou est-ce qu'on est capable de changer de modèle? C'est en ça que les questions que pose la Grèce nous concernent tous. Il ne s'agit pas de les aider, il s'agit de changer l'Europe tous ensemble. Je crois qu'on est des millions. On est des millions à vouloir mettre les banques à leur place. Mmh. On a besoin de banques, mais il faut une séparation. Moi, j'avais voté pour François Hollande. Il avait dit qu'il allait séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires.
Vous attendez toujours ?
Oui, on attend toujours.
Mmh. Merci Pierre Larouturou. Et soyez patient. Économiste. Co-président du parti Nouvelle Donne, merci d'avoir été face aux Français. Dans un instant, on parle des autoroutes. Est-ce qu'elles sont, comme certains le disent, des poules aux œufs d'or? 39-21 pour nous le dire, à tout de suite.
Europe Midi. Europe Midi. Pierre de Villeneuve.
Et à midi 39, voici l'essentiel de l'actualité, Christophe Carré.
Le procès aux assises du Var de ce couple jugé pour avoir abattu deux femmes gendarmes à la suite d'un cambriolage à Colobrière. Le procureur vient à l'instant de requérir la perpétuité contre le principal accusé. Sa compagne est poursuivie pour complicité. Le verdict est attendu dans la soirée. Le démarrage de 3 jours de grande marée sur tout le littoral, coefficient attendu de 118 sur 120, un cycle qui n'arrive en moyenne que tous les est 20 ans. Toutes les communes de la façade ouest se sont préparées, sacs de sable et digues rehaussées. Orange sur les routes aujourd'hui dans le sens des départs en Ile-de-France, chassés, croisés de toutes les zones. Demain, orange dans toutes les régions dans les deux sens, noir en Rhône-Alpes et en Auvergne vers les stations de ski. Les urgences sursaturées par la grippe, l'épidémie a déjà fait 2 millions de malades. Le plan Orsan est déclenché. Tous les moyens disponibles mis à disposition immédiate. Les opérations programmées sont repoussées. La SNCF lance la chasse aux fraudes. En mars, les amendes passeront de 35 à 50 euros minimum. Elle a dévoilé son plan. Ce matin, les contrôles d'accès aux trains seront renforcés. La demande d'Athènes est un point de départ des discussions. C'est la position défendue par l'Allemagne avant la réunion cet après-midi de l'Eurogroupe sur la dette grecque à Bruxelles. Pour Berlin, ce que propose la Grèce est pour l'instant insuffisant. Le foot débute ce soir de la 26e journée de Ligue 1 à 20h30. Nice accueille Monaco. Et puis la 40e nuit des Césars, ce soir au Théâtre du Châtelet, présidé cette année par Danny Boone. Édouard Baird en maître de cérémonie, un César d'honneur. Pierre sera remis à l'acteur américain Sean Penn.
Ouais, et on en parle à 13h15 avec Bruno Kras de ces Césars. Merci Christophe, à tout à l'heure 13h pour un journal complet.
Europe Midi. Midi 14h. Pierre de Villeneuve.
L'affaire avait fait grand bruit, notamment la semaine dernière. Le gouvernement voulait s'en prendre aux autoroutes, accusé d'être de véritables poules aux œufs d'or, faisant des bénéfices. 20%, c'est ce qu'on a entendu comme chiffre. Les sociétés d'autoroutes, elles, sont montées au créneau en déposant un recours devant le Conseil d'État. Quoi qu'il en soit, une mission parlementaire a été mandatée pour plancher sur le sujet. Et d'après certains députés, on a confondu bénéfices et rentabilité. La rentabilité des sociétés d'autoroutes ne serait finalement pas du tout de 20%, mais de 7% si on tient compte des investissements de départ. En tout cas, tout cela reste bien flou et on se pose des questions. Bonjour Mathieu Lesage.
Bonjour.
Vous êtes avocat, c'est vous qui assurez le recours contre les autoroutes devant le Conseil d'État pour le think tank Automobilité et Avenir. Éclairez-nous, on en est où? Quels sont les vrais chiffres? Qui dit quoi? Est-ce que les autoroutes sont des poules aux œufs d'or comme on le dit?
C'est ce que dit l'autorité de la concurrence effectivement dans son avis du 18 septembre dernier. Mmh. Et elle le dit sans embâge puisqu'elle calcule cela selon les données chiffrées fournies par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Donc tout ça est complètement vrai et vérifié.
Les données chiffrées de l'année, hein.
Exactement.
C'est ça.
Et puis, elle utilise plusieurs indicateurs financiers et tous viennent rapporter la même chose. C'est, au-delà de la guerre des chiffres, le compte-rendu, c'est qu'il y a une rentabilité exceptionnelle. Et que, notamment en temps de crise, c'est quelque chose d'assez faramineux. Aujourd'hui, les sociétés concessionnaires n'ont de cesse de dénoncer l'autorité de la concurrence et les chiffres ainsi fournis. Ceci étant, elles ne contestent pas la rentabilité nette exceptionnelle qui est critiquée par l'autorité de la concurrence. Elles vont sur d'autres indicateurs. Donc, en fait, elles contournent l'obstacle pour dire le taux, le TRI, par exemple, qui est autre chose. C'est le taux de rentabilité des investissements. C'est en gros la rentabilité espérée par les actionnaires au moment de la privatisation en 2005-2006. Donc c'est quelque chose de différent. Mais donc elle s'appuie sur des chiffres qui sont fournis par des cabinets d'audit indépendants, comme le cabinet Deloitte, qui a rendu un rapport en 2014.
Oui, cabinet connu.
Tout à fait estimable, aucun problème. Sauf que l'autorité de la concurrence est indépendante, alors que le cabinet Deloitte répond aux audits demandés par ses clients.
Donc les sociétés d'autoroute, en l'occurrence.
Exactement. Et que cette guerre de chiffres fait qu'on n'a pas, en tout cas aujourd'hui, jamais... Les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'ont contesté la rentabilité nette qui est la leur. C'est-à-dire qu'elles contournent l'obstacle en prenant d'autres indicateurs.
Oui, mais elles contestent le chiffre de 20% notamment. Et d'ailleurs, quand on entend Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1, qui vous dit que quand il a eu au téléphone ou qu'il a rencontré des députés socialistes qui planchent sur le sujet, qui disent qu'en fait, on est bien loin des 20% annoncés de rentabilité, cette rentabilité de sociétés d'autoroutes serait de 7 à 8%. Votre avis là-dessus, c'est quoi?
Alors ça, c'est les sources que vous avez effectivement que vous m'annoncez.
Des sources vérifiées. Hein,
ah non, mais je dis pas que
je les critique
pas. Non, mais je mets pas en doute la véracité de cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un groupe de travail parlementaire qui a été constitué sur l'ordre du Premier ministre, qui attend le rapport du groupe de travail. Qui a deux options vérifiées. Soit on reste dans les contrats, on tâche de les renégocier entre l'État et les sociétés concessionnaires. Soit on sort du contrat, on les résilie. Deux options à vérifier. Okay. Ensuite, les parlementaires que vous avez, dont vous avez les révélations ne sont pas la majorité, puisqu'il y a au moins une vingtaine de parlementaires dans le groupe. Là, vous parlez de trois personnes, peut-être. Et puis, il n'y a pas eu de position ferme et officielle prise par le groupe de travail, qui va d'abord rendre un rapport d'étape au mois de mars, et avant de rendre un rapport définitif. Et d'ailleurs, je vais dire que j'espère que ce n'est pas le rapport définitif au mois de mars, parce que le temps serait vraiment trop court pour avoir un rapport complet et bien rendu. Donc aujourd'hui, je ne critique pas du tout la véracité des sources, mais je dis que ce n'est pas du tout officiel.
Ce n'est pas du tout officiel, Mathieu Lesage nous dit ça. Et des questions pour vous, Mathieu Lesage, madame, par exemple ?
Oui, bonjour monsieur. Comment se fait-il que dans ce domaine, on n'arrive pas à mettre sur pied une vraie transparence pour que tout le monde comprenne ?
Je suis d'accord avec vous, c'est le vrai problème. Alors l'autorité de la concurrence, c'est la transparence. Parce qu'on est quand même dans un univers aujourd'hui où la France, comme la plupart des États modernes, font de l'État plutôt un État stratège, plutôt qu'une vraie fourniture de biens et de services, et en s'adjoignant les services d'autorités de régulation, dont l'autorité de la concurrence. Parce qu'au-delà de la guerre des chiffres, il faut aussi rappeler les grands enjeux. L'autorité de la concurrence, d'ailleurs, a vu ses pouvoirs confortés dans la loi, pas encore votée, mais le projet de loi Macron. Bruno Lasserre, son président, a été lui-même conforté dans sa fonction, donc il a un nouveau mandat, parce que son travail...
Bruno Lasserre qui dirige...
Le président de l'autorité de la concurrence. Donc, a priori, son travail n'est pas remis en cause. C'est une indépendance avec des experts qui sont d'une haute technicité. Leur seul intérêt là-dedans, c'est de bien faire leur travail. S'il n'y a pas de problème, ils le disent. S'il y a un problème, elles le révèlent. C'est tout.
Donc, d'ailleurs, l'autorité de la concurrence est transparente dans le sens où elle prend les chiffres par an. Quand on parle de 20%, c'est rentabilité par an et non pas en comptant les investissements de départ.
Mais elle a si plusieurs indicateurs financiers.
C'est ça.
Il y en a plusieurs. Il y a l'excédent brut d'exploitation, le résultat net. Enfin, vous avez de la transparence. Il faut lire le rapport. Il faut lire l'avis qui fait 150 pages.
La transparence existe. Oui. Un téléphone qui nous vient de l'Hérault 3921. Paul nous appelle de Béziers. Bonjour, Paul.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bon, je suis assez surpris quand j'entends parler de transparence. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment il y a transparence lorsqu'on pousse à la consommation, ne serait-ce que pour les poids lourds, on les oblige à aller sur les autoroutes qui sont payantes. Je voudrais savoir où passe cette manne d'argent, parce qu'un camion qui prend l'autoroute, c'est excessivement cher. Ça plombe les cours des entreprises, ça plombe les trésoreries. Alors, je voudrais quand même savoir où passe l'argent de tous ces camions qui transitent sur nos autoroutes. Là, je suis un peu suspicieux là-dessus. Et je voudrais revenir aussi sur les enquêtes, parce que il me semble quand même que on sait tous qu'au gouvernement, les lobbies agissent de manière plus que agressivement. Donc, quelle est la part de raisonnabilité et quelle est la part de sérieux de ces enquêtes ?
Alors d'abord, réponse Mathieu Lesage, où passe l'argent ?
Très intéressant ça. Moi c'est ce que je dénonce, hein, c'est la captation de la rente publique au bénéfice du privé et par la mise en place. Alors il y a les partenariats public-privé, puis là il y a les concessions de services publics et c'est effectivement l'enjeu aujourd'hui politique de ces questions, notamment sur les autoroutes. Le bénéfice des sociétés privées qui sont effectivement exorbitants, en tout cas c'est ce que dit l'autorité de la concurrence. Et puis pour revenir et donc, les profits des péages sont plus entre les mains de l'État, donc entre les mains des usagers et des citoyens, mais partent dans le privé. Pour revenir sur la transparence, en toile de fond, il y a des critiques aussi, parce que l'autorité de la concurrence, son avis est transparent, il suffit de le lire, mais les données qu'elle a sont les données que veulent bien fournir les sociétés concessionnaires, par exemple.
Mais, il y a pas de, on ne peut pas les inciter,
on ne peut pas les obliger. Puis, de toute façon, on ne sait jamais tout. Voilà. Et puis il y a d'autres pratiques anticoncurrentielles qui ont été dénoncées aussi, c'est-à-dire que lorsque les sociétés concessionnaires, en fait ce sont les filiales des grands groupes de BTP, et
Eiffage, Vinci,
voilà exactement, et qui ont des cash flows, enfin
de l'argent
de façon disponible très intéressante, et qui réinjectent cela vers les sociétés mères de BTP. Donc ça fait des trésoreries énormes, et c'est là que parle l'argent des poids lourds dont parle votre auditeur.
Alors quand notre auditeur justement nous demande où passe l'argent, les sociétés d'autoroutes souvent disent on entretient les routes, c'est pour votre sécurité, et ça on n'y croit pas ?
Non, on n'y croit qu'à moitié en fait. C'est-à-dire que en fait, entretenir une autoroute, ça coûte pas très cher. C'est du bitume. Bon. Et puis, il faut aussi dire que les sociétés d'autoroutes reprennent à l'envi les bons rapports, c'est vrai, sur la qualité des autoroutes françaises, de superbes infrastructures, peut-être les meilleures d'Europe, voire du monde. Mais il y a quand même des critiques à faire. C'est-à-dire qu'on a des routiers qui dénoncent le fait qu'il y ait pas assez d'emplacements pour se garer, parce que vous savez qu'ils sont astreints des règles de sécurité, avec des temps de repos, des temps de trajet très stricts. Et vous avez parfois des camions qui sont garés sur les aires d'entrée, de sortie de ces aires-là parce qu'ils n'ont pas assez de place pour se garer. Ils dénoncent la sécurité, ils peuvent être volés, leurs cargaisons sont volées, ils ne peuvent pas se doucher, pas forcément manger convenablement. Ouais. C'est la sécurité tout ce qui est en jeu. Et on a aussi des gens comme, je me souviens, Feu Jean-Pierre Beltoise qui avait lui, initiait des tronçons d'autoroute avec une asphalte différente, de meilleure qualité et qui améliorait l'adhérence. Donc il disait, lui, qu'il y avait moins d'accidents sur les tronçons qu'il avait mis en place avec son asphalte à lui. Donc on n'est pas sur une sécurité optimale. Et je voudrais qu'on torde un peu le coup à cette idée reçue qui est diffusée. C'est vrai qu'on a des autoroutes de bonne qualité, mais d'une part, avant la privatisation, elles étaient déjà de bonne qualité. Pas que je sache, elles ne sont pas de meilleure qualité depuis qu'on a privatisé les autoroutes.
Bon, ça dépend après, mais les exemples sont nombreux, mais on ne va pas refaire toute la cartographie.
Non, pas du tout. Et puis, parallèlement à ça, nous avons des autoroutes qui sont de bonne qualité, mais qui ne sont pas non plus parfaites.
En tout cas, vous dites qu'effectivement, les sociétés d'autoroutes se font des marges assez conséquentes, mais elles sont aussi taxées. L'État prend beaucoup d'argent aussi.
Oui, mais dans les contrats de concession, vous avez des clauses quand même extraordinaires. C'est-à-dire que lorsque l'État rajoute une taxe, les sociétés concessionnaires sont en droit de demander une compensation.
Oui, mais est-ce qu'elles le font ?
Eh oui, bien sûr qu'elles le font.
Elles n'hésitent pas.
Non, croyez-moi.
Ouais. Mais est-ce que c'est proportionnel ? Est-ce que vous avez un exemple ?
Mais oui, c'est ça. C'est la redevance domaniale qui augmente. Ouais. En contrepartie, les sociétés concessionnaires, l'exemple, il est là, puisque au 1er février, il y a eu un arrêté ministériel de gel des tarifs. Parce qu'elle devait augmenter tous les ans, ça augmente le 1er février mécaniquement. Et là, ça devait être 0,57% plus 0,50% en compensation des 100 millions d'euros de plus de la redevance domaniale qui avait été votée par l'Assemblée nationale. Eh oui, donc c'est automatique. Bon,
c'est...
Donc voilà, non, mais vous avez la réponse
bon
à votre question.
Bah,
c'est très clair.
On a compris. Madame a une question pour vous.
Oui, bonjour monsieur. Comment ça marche, les zones d'étape ? Les restoroutes, l'essence, comment ça marche ça ?
C'est-à-dire au niveau fiscal, au niveau...
Au niveau fiscal, au niveau entente, lobby...
Qui touche quoi ?
Quel que soit l'essence, moi par exemple, je prends beaucoup l'autoroute de Brest à Strasbourg. L'essence, c'est que ce soit la marque, c'est toujours le même prix, partout.
Alors, explication. Soyons pédagogiques, Mathieu Le Sage.
Ça va être compliqué parce que je suis un peu moins calé sur ces questions-là, effectivement. Mais c'est effectivement des marchés... On appelle ça des marchés pertinents, c'est-à-dire il y a le marché des autoroutes, c'est les concessions, il y a le marché des BTP, c'est on construit autour, il faut des aires de stationnement, des parkings, effectivement. Et puis il y a tous ces marchés donc, qui sont connexes à l'autoroute elle-même. Et ça, effectivement, il peut y avoir, mais j'ai là pas du tout d'annonce à faire fracassante. Oui, mais il peut y avoir des ententes tacites, effectivement, mais ça, je n'ai pas vérifié tout cela. Je ne peux pas vous le confirmer.
Monsieur.
Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a une différence selon les régions ? Parce que je vois les autoroutes de montagne sont beaucoup plus chères en général que les autoroutes en plaine. Donc, et comme le maintien de l'autoroute la maintenance n'est pas très chère, excusez-moi. Donc, comment expliquer ces différences de prix ?
C'est la météo, c'est quoi ?
L'autoroute de montagne, il faut le dire quand même, a été beaucoup plus chère à construire que celle de plaine. Donc, il est normal que ce... Oui, effectivement, avec les ouvrages d'art et tout qu'il faut
entretenir. Les tunnels, les viaducs, c'est
normal que ce soit plus cher à ce niveau-là.
C'est la seule explication.
Il y a une réalité, effectivement, le coût de la construction, bien sûr.
Mademoiselle.
On a vu pour revenir aux chiffres, on avait vu cette différence assez énorme, apparemment, de compte entre 20% et 7%. Mais concrètement, ces sociétés d'autoroute, quels avantages elles en retireraient d'avoir plus 7% que 20% de marge ?
En fait, les autoroutes, sociétés concessionnaires, elles s'accrochent à leurs contrats. Donc elles veulent même prolonger les contrats, puisqu'elles ont signé un plan de relance autoroutier avec l'État. Ça, c'était l'automne 2012. Pour l'instant, ça a été un peu bloqué, mais c'est encore dans les tubes. Parce que effectivement, les médias sont emparés de la question, dénoncés avec l'autorité de la concurrence les profits exorbitants. Mais les sociétés concessionnaires n'ont qu'un intérêt, c'est que leur rentabilité soit la plus forte possible. Mais il y a des indicateurs qui sont un peu masqués, par exemple la dette. Lorsque les autoroutes ont été privatisées, les sociétés, les grands groupes ont acheté les autoutoroutes, mais ils ont aussi acheté une dette. Donc ils l'ont acheté 14 milliards. Et puis, il y a une dette, je crois, de 20-25 milliards. Aujourd'hui, cette dette existe toujours, elle est quasiment du même niveau, parce qu'elles entretiennent la dette. Donc, au lieu de rembourser la dette, elles distribuent des dividendes aux actionnaires.
Quoi la raison d'entretenir la dette ? Parce qu'elles ont le droit de la maintenir ? Il n'y avait pas une obligation d'État de rembourser la dette au moment de la privatisation ?
Il y a un avantage fiscal assez exorbitant, c'est la déductibilité totale des intérêts de l'emprunt.
C'est-à-dire, attendez,
plus elles ont une dette, elles empruntent de l'argent. Et puis, elles ont les intérêts de cet emprunt, peuvent le déduire de leurs impôts.
Ah d'accord, ça c'est en
donc
place.
Donc elles encouragent le maintien de la dette. C'est pour ça que c'est compliqué, on veut sortir des contrats de concession, moi c'est ce que je prône. C'est possible, c'est l'article 38 des contrats de concession, l'État peut, au motif d'intérêt général, sortir des contrats, les résilie, tout de suite.
Et vous, vous êtes favorable à ça ?
Tout à fait.
Pour quelle raison ?
Parce que je trouve que la situation actuelle est mauvaise, parce que les contrats sont mal ficelés, sont trop dans l'intérêt des sociétés concessionnaires, il y a un déséquilibre, la rente publique va au bénéfice du privé, et les autoroutes, j'ai entendu l'action de Mme Lepage, c'est très intéressant, mais c'est pour faire baisser
l'action
les tarifs.
Ouais.
Oui, mais c'est pas vraiment ça. Ça, ça m'intéresse, mais c'est plus large que cela. C'est-à-dire que l'argent des autoroutes qui allait au profit de l'État, c'est pour financer non pas les autoroutes eux-mêmes ou faire baisser les tarifs des péages, c'est pour financer les projets de transport dans les régions. Donc il y a 120 projets, par exemple, qui sont prévus dans le contrat plan État-région 3e génération. Bref, donc, c'est quelque chose d'énorme pour tout le monde. Et lorsque cet argent part dans le privé, c'est plus possible. Alors du coup, nous demandons que l'État résilie les contrats.
Et qu'est-ce qu'on ferait après ?
Eh bien, il y a par exemple autre chose que la concession, c'est la régie intéressée.
C'est-à-dire ?
Très simplement, c'est l'État qui travaille avec le privé, société privée, mais l'État garde les grandes orientations stratégiques, les grands bénéfices, aussi les grands risques, et la société qui est en régie, elle, exploite au jour le jour.
Enfin, si l'État a privatisé, c'est qu'il ne veut plus faire ça ?
Mais parce qu'on lui a, ou il a cru, que déjà en vendant, il allait gagner 15 milliards. L'autorité de la Cour des comptes avait, dit que ça serait au moins 25 milliards.
Ouais.
Donc, gagne de l'argent, mais c'est un fusil à un coup. Il n'y a plus de balles dans le fusil maintenant.
Ouais. C'est court-termiste. Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui ?
Non, mais c'était en 2006, c'est fini ça. Ben, l'ATA, il est souvent interrogé par les médias, par les intervenants.
Non, mais par vous. Parce que là, vous avez une proposition.
On n'a pas vu.
Vous l'assemblez bonne et vous pensez qu'elle est bonne.
Et oui.
Est-ce que vous avez interrogé le gouvernement s'il est intéressé par votre proposition ?
On a fait un recours gracieux auprès du Premier ministre. Une façon. On n'a pas allé au contentieux.
Non,
on veut dialoguer.
Mais
on aurait pu y aller directement, au gracieux, pour interpeller le Premier ministre. On attend sa réponse. Deuxièmement, on a vu des décideurs, c'est des parlementaires, qui sont pour la résiliation et qui la prônent. Et qui ont, eux, fait des missions d'abord sur l'écotaxe, puis après sur les infrastructures de transport, et rapport du 17 décembre 2014 de cette mission parlementaire, pour sortir des contrats.
Merci beaucoup Mathieu Lesage pour vos explications. On verra comment on arrive à sortir ou pas d'ailleurs des contrats de concession. Visiblement, c'est pas pour demain. Dans un petit instant, on parlera justement des Césars, mais avant ça, de cette affaire de SMS pouvant être lu sur votre téléphone portable par votre employeur si c'est un téléphone professionnel. À tout de suite.
Europe Midi, Pierre de Villeneuve.
Dans une minute, le journal de 13h et on ira à Bordeaux pour suivre les dernières nouvelles au procès Bettencourt. Mais d'abord, la météo, Laurent Cabrol, que nous réserve cette journée.
Les grandes marées, c'est le sujet du jour. Aujourd'hui et demain, on vivre vraiment une période exceptionnelle. En attendant la grande période du 20 mars ou 21 mars prochain, puisque là, ce sera la marée du siècle, nous n'en sommes pas là, mais nous sommes pas loin. 118, 119, le record c'est 120.
Ouais.
C'est ce que nous aurons ce week-end. Attention, avec une observation certainement à ne pas manquer, soit sur le Mont-Saint-Michel, soit sur Saint-Malo, qui sont les deux points privilégiés. Donc ces grandes marées accentuent encore le mauvais temps qui s'est installé sur une grande moitié nord de la France depuis ce matin, de la pluie, et surtout du vent. Et puis ces pluies, demain, vont glisser vers l'Alsace, la Franche-Comté, le Mâconnais, la région Rhône-Alpes, le Midi-Pyrénées, le bassin méditerranéen. Donc la perturbation ira dans ces régions. Donc de la pluie en plaine, mais aussi de la neige en montagne. Et nous pensons à ceux qui vont en vacances demain et qui vont franchir donc les montagnes ou qui vont essayer d'atteindre les montagnes. La neige à partir de 400 mètres seulement. Ailleurs, ce sera un système de giboulées et les températures identiques à celles d'aujourd'hui. Et puis, je voulais simplement dire que pour l'avenir, nous n'avons pas de très bonnes nouvelles à vous donner. Dans les 8 ou 10 jours qui viennent, ce sera un temps quasi identique qui va s'installer. Les perturbations vont se succéder, les températures resteront très fraîches, avec donc de la neige et parfois une journée de répit, comme celle de dimanche, car dimanche, ce sera une journée de répit. Et je vous laisse.
Merci de nous prévenir, et Laurent Cabrol. 13h sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Voici le journal. Et il est présenté par Christophe Carré.
Le début du réquisitoire au procès Bettencourt à Bordeaux. Nous serons en direct avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Le procureur frappe fort sur le photographe François-Marie Bagnier. Un patron peut fouiller dans le portable professionnel de ses salariés. Les SMS ne sont pas privés, tranche la Cour de cassation. Smoking, robe de soirée, la 40e nuit ce soir des Césars. Quel palmarès ! Bruno Crasse, monsieur cinéma d'Europe 1, est avec nous.
Midi, 14h.
Et à l'heure où l'on parle, Christophe, le réquisitoire est en cours à Bordeaux au procès Bettencourt.
Des proches de la milliardaire ont-ils profité de son état de faiblesse pour toucher de l'argent ? C'est tout l'enjeu des débats entamés il y a maintenant un mois. Naomi Schulz, c'est vous qui suivez ce procès pour Europe 1. On vous retrouve en direct. Le procureur n'est pas tendre dans ses réquisitions contre le photographe François-Marie Bagnier.
Ah non, et on l'a d'ailleurs vu se tasser sur sa chaise au fur et à mesure du réquisitoire, tant la charge est violente. Le procureur Aldiger, quand il parle de lui, se tourne vers François-Marie Bagné, le montre du doigt. Parfois, c'est clair, il n'a pour lui aucune sympathie. Il décrit un homme ayant su se rendre indispensable auprès de Liliane Bettencourt, qui, telle une midinette, est tombée amoureuse de lui. Il se comporte comme le renard de la fable de La Fontaine. C'est un flagorneur, raille le procureur, un manipulateur hors du commun qui a touché des centaines de millions d'euros. C'est quoi d'ailleurs 82 millions d'euros? Nos unités de valeur chancellent. C'est ce qu'ont donné les Français au Téléthon en 2014, précise-t-il. Les critiques pleuvent maintenant. Un faux ingénu, un pitoyable menteur, l'avidité faite homme. On comprend en l'entendant qu'il demandera à tout à l'heure la condamnation de François-Marie Bagné. Avant cela, le procureur aura pris longuement le temps de réhabiliter une instruction largement critiquée et notamment le travail des trois juges instructeurs. On a laissé penser qu'ils auraient poursuivi les prévenus de leur vindicte, mais il n'y a pas de complot, il s'agit tout simplement de comportements individuels qui caractérisent des infractions pénales.
Merci Noémie Schulz, en direct de Bordeaux pour Europe 1. Autre procès, celui de ce couple aux assises du Var, jugé pour avoir abattu deux femmes gendarmes à la suite d'un cambriolage. C'était en juin 2012 à Colombrière. Le procureur vient de requérir la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans, soit la peine maximale, contre le principal accusé Abdallah Bouzemar. Sa compagne Inès Farhat est poursuivie pour complicité. Le procureur demande 15 ans et une peine de sûreté des deux tiers. Le verdict est attendu dans la soirée. La Grèce et l'Europe ont accompli 80% du chemin qui mène à un accord sur la dette. C'est ce qu'affirme un haut fonctionnaire grec à Bruxelles, où démarre cet après-midi une nouvelle séance de négociations entre les ministres des Finances de la zone euro. Une porte-parole de la délégation allemande souligne quant à elle que les propositions d'Athènes sont un point de départ, mais restent insuffisantes. Les urgences sursaturées par la grippe, on en parlait dès midi, situation semblable à ce que les hôpitaux ont subi à l'époque de la canicule en 2003. L'épidémie a déjà fait 2 millions de malades. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a déclenché le plan Orsan, mise à disposition immédiate de tous les moyens disponibles.
Jusqu'ici, il y avait un vide législatif, mais cette fois-ci, c'est tranché. Les patrons ont tout à fait le droit de fouiller dans votre téléphone professionnel.
C'est un arrêt de la Cour de cassation rendu il y a quelques jours. Il va faire jurisprudence, ce qui veut dire qu'il s'applique à tous. Simon Rubin, pour être clair, les SMS que l'on reçoit ou que l'on envoie de son portable professionnel n'ont absolument rien de privé.
Non, rien de privé, sans avoir à vous demander votre avis. Votre employeur peut en effet consulter le contenu de vos messages, de vos appels. Alors cette jurisprudence, elle est née d'un litige entre deux entreprises. Celles qui estimaient lésées à utiliser comme preuve des SMS échangés par des salariés avec leur téléphone pro. Et la Cour de cassation a considéré ces messages comme des preuves tout à fait recevables. Car on n'est plus dans le domaine de la vie privée dès lors qu'on utilise du matériel mis à disposition par l'entreprise. Et pour surveiller les employés, plusieurs solutions. Bien sûr, l'employeur peut vérifier directement en prenant le téléphone professionnel. Mais dans beaucoup d'entreprises, il existe un serveur par lequel transitent tous les SMS pour que l'employeur puisse finalement très simplement vérifier et lire les contenus des messages.
Sur les mails professionnels, Rubin, il suffit de mettre en objet personnel ou privé pour que ce soit lu par personne. Pour les SMS alors?
C'est la même chose. En début de SMS, écrivez le mot privé ou personnel et à partir de ce moment-là, l'employeur n'a plus le droit de lire le message ou du moins n'a-t-il plus le droit de s'en servir d'une quelconque manière.
Merci Simon Rubin et on y revient dans un instant avec l'avocat spécialisé en droit des technologies et protection des données personnelles. C'est précis, hein. Alain Bensoussan sera là pour vous.
Dès le mois de mars, les amendes SNCF passeront de 35 à 50 euros minimum. Elle vient de dévoiler son nouveau plan anti-fraude. Les fraudeurs seront plus sévèrement sanctionnés. Il y aura aussi plus de contrôle pour l'accès au train. Chaque année, la fraude coûte 300 millions d'euros à la SNCF. Orange sur les routes aujourd'hui dans le sens des départs en Ile-de-France. C'est surtout demain que l'on attend beaucoup de monde. Chassés-croisés de toutes les zones A, B et C, ce sera orange dans toutes les régions pour les départs et les retours. Ce sera même noir en Rhône-Alpes et en Auvergne vers les stations de ski.
Du glamour, des paillettes, des stars, c'est ce soir la 40e nuit des Césars au Théâtre du Châtelet.
Édouard Baer en maître de cérémonie, Danny Boone en président. Un très beau palmarès cette année. Bruno Crash, je suis sûr que vous avez les favoris.
Alors c'est compliqué parce qu'il y a 118 nominations et 21 Césars à l'arrivée. Moi je pense que dans la catégorie meilleur film, Timbuktu pourrait prendre sa revanche sur le Festival de Cannes et avoir obtenu le César du meilleur film. Meilleur réalisateur, je verrai aussi le réalisateur de Timbuktu, Abderrahman Sissako, avec peut-être en outsider Bertrand Bonello qui a beaucoup la cote avec son Saint-Laurent et qui pourrait aussi avoir le César du meilleur film. On va dire meilleur acteur Guillaume Canet qui fait une des plus belles performances de sa carrière en tant que qu'acteur, puisqu'il est aussi réalisateur. Dans La prochaine fois, je viserai le cœur. Vous savez, il campe ce gendarme tueur de l'Oise et lui donne toute l'ambiguïté du personnage. Il est vraiment très très bon. D'ailleurs, il trouve que c'est un très bon rôle dans sa carrière. Et puis, côté fille, moi, j'ai un faible pour Émilie Dequesne dans le film Pas son genre de Lucas Bellevaux, où elle est remarquable en petite coiffeuse à Arras. Elle est bouleversante dans ce côté joyeux et plein d'émotions. Mais en Outsideuse, je me permets ce néologisme, je verrai quand même Marion Cotillard, Deux jours, une nuit, où elle est nommée aussi parmi les actrices pour les Oscars. Marion Cotillard sera là ce soir. Elle s'envolera vers Los Angeles demain. Voilà pour mes pronostics.
Parce que les Oscars, c'est dimanche. Hein.
C'est dimanche, c'est absolument.
Ça. Merci Bruno Kras.
Et merci à vous Christophe Carré. Prochain point sur l'actualité. À 14h, n'oubliez pas, à 13h30, le débat d'Europe Midi. Faut-il céder à la tentation de ce tourisme médical en France? Vous savez qu'il y a des gens très très riches, très fortunés qui viennent se soigner en France. Eh bien, visiblement, il y a des gens, notamment des syndicats de médecins, des associations qui sont contre. Pour ou contre, est-ce une aubaine ou plutôt un danger? 39-21 pour nous le dire.
Europe Midi. Europe Midi. Midi 14h. Pierre de Villeneuve.
Les horloges sonnaient 13h. Ça tombe bien. Première phrase de Les horloges sonnaient 13h. 1984 de George Orwell. Fabuleux roman d'anticipation. Visionnaire George Orwell. Et si Big Brother aujourd'hui trouvait sa source dans les nouvelles technologies, les mails, les SMS, les tweets, les clouds, tout cela est poreux à tel point qu'un procès, on vient de l'entendre avec Simon Rubin, a confronté un employé et son patron. Ce dernier était allé regarder les SMS sur le téléphone professionnel de son salarié au prétexte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnel. Bonjour Alain Bensoussan.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialisé en droit des technologies et protection des données personnelles. Est-ce que cette jurisprudence vous semble juste? Est-ce qu'elle tient la route?
Alors, cette jurisprudence, elle est la suite d'une construction qui a commencé avec l'affaire Nikon et le droit à la vie privée résiduelle des salariés dans le cadre de l'entreprise.
L'affaire Nikon, j'imagine c'est un appareil
affaire,
photo.
Nikon, c'est ce nom de l'appareil photo de la compagnie qui disait que, au fond, cette compagnie disait que il n'y avait pas besoin de vie privée à l'intérieur de l'entreprise. Il y avait une vie privée qui était uniquement téléphonique où on n'avait pas le droit d'écouter le téléphone, mais sur Internet, il n'en était pas question. Et la Cour de cassation, c'est le premier niveau, consacre sur tous les médias le droit du salarié à avoir une vie privée résiduelle dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a un milieu professionnel, mais tout n'est pas professionnel. Il peut y avoir une vie personnelle. Et c'est là le premier élément. Cette vie personnelle peut s'exprimer. C'est normal, on peut dans un couloir montrer les photos de ses enfants. Il n'y a pas là détournement de son obligation de travailler ou détournement d'obligation de loyauté.
On peut dire, mais au lieu de montrer les photos de vos enfants, vous pourriez retourner au boulot.
On pourrait, à condition, sauf que là, l'idée, c'est qu'il y ait une vie privée résiduelle, donc quelques minutes, et c'est la façon de vivre dans une démocratie, même une démocratie numérique. Donc le premier niveau, c'est, il peut y avoir une vie personnelle. Dans la mesure où cette vie personnelle est identifiée, l'employeur n'a pas le droit de regarder cette vie privée résiduelle, quels que soient les médias. Mais bien évidemment, on est en milieu professionnel, et donc la règle qui est posée à l'époque sur, effectivement, l'Internet est une règle qui dit que tout est professionnel, sauf ce qui est marqué personnel. Un peu plus tard, s'est posé la question des dossiers qu'on pouvait avoir sur son ordinateur. De la même manière, on a continué à construire ce droit à la vie privée résiduelle. L'employeur a le droit de regarder tous les éléments, puisqu'on est en milieu professionnel, sauf les dossiers où il y a marqué personnel. Personnel, mais pas son nom. Personnel, mais pas perso. Il faut que ça soit clair. Et il faut une autre règle, c'est qu'il y a une charte qui une charte dans l'entreprise qui organise cette notion de vie personnelle. S'il n'y a pas de charte, tout est personnel. S'il y a une charte, alors n'est personnel que ce qui est marqué personnel.
Donc il faut que toutes les conditions soient réunies
pour qu'effectivement l'employeur ait le droit. Alors, il y avait d'abord à construire tous les éléments. Il y avait à construire, par exemple, la clé USB personnelle. Ouais. Est-ce que quand on met une clé USB personnelle sur l'ordinateur? Mais il y avait à construire aussi les SMS. Et pour les SMS, la règle est claire. Les SMS sur le matériel téléphonique professionnel, sont présumés être des SMS professionnels. Donc l'employeur a le droit de les regarder, sauf s'ils sont marqués personnels.
Sauf s'il y a écrit personnel. Alors justement, on en parle avec vous au 3921. C'est Loïc qui nous appelle de Paris, dans le 18e arrondissement. Bonjour Loïc.
Oui, bonjour Pierre.
On vous écoute.
Voilà, ce qui se fait déjà dans les entreprises, c'est qu'à partir du moment où on envoie un mail de son adresse pro,
on peut mettre dans l'objet du mail privé ou personnel, et ça veut dire que le patron normalement n'a pas le droit de consulter, enfin n'a pas accès à l'email. Est-ce qu'il y aura possibilité de faire la même chose sur les SMS?
Précisément.
C'est précisément, oui.
Précisément, c'est-à-dire que maintenant, Loïc, vous inscrivez personnel sur votre SMS avant de dire mon patron est un tel et un tel. Non, c'est ça.
C'est patron, exactement là. Ça. Mais le patron ou toute autre personne.
Oui, voilà, c'est ça. Hein, donc attention à ce que vous écrivez, hein, Loïc.
Oui, je fais gaffe. Merci
de votre coup de fil. Madame, une question pour vous.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour,
tant
madame.
Qu'il n'y a pas de charte dans toutes les entreprises, jusqu'où un patron a-t-il le droit d'aller?
Alors, quand il n'y a pas de charge, un patron sur la partie numérique, c'est-à-dire les dossiers personnels éventuellement, les mails, il n'a pas le droit de les regarder. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout devient privé. Puisqu'il a l'organisation possible, s'il n'organise pas le droit à la vie privée résiduelle par cette notion de personnel dans une charte, il n'a le droit de rien voir, y compris les éléments professionnels.
C'est-à-dire qu'en l'absence de charte, tout devient privé.
Oui, parce que
même si c'est un téléphone professionnel et un ordinateur professionnel.
Oui, parce qu'on considère que là, il n'a pas permis ce droit à l'expression de la vie privée résiduelle.
Donc c'est lui qui est en cause parce qu'il n'a pas fait de charte.
Voilà, parce qu'il a un droit d'organisation. N'ayant pas fait ce droit d'organisation, on ne permet pas la présomption de s'appliquer.
Mademoiselle a une question pour vous, Alain Bensoussan.
Avec plaisir.
Bonjour, mais du coup, l'espionnage porte-t-il sur la nature des échanges personnels ou alors sur le contenu de ces échanges?
Alors, le mot espionnage est un mot fort.
La surveillance, le droit de regard.
Voilà, le droit de regard, hein, parce qu'il faut bien distinguer espionnage, surveillance et droit de regard.
Mais il y en a de l'espionnage.
Oui, mais il faut les distinguer juridiquement.
Alors, expliquez-nous.
Il faut les distinguer. On va venir le droit de regard. Ouais. C'est un droit important. Là, dans l'affaire qui est en cause, il y a des difficultés, vous voyez bien, entre les salariés, des comportements qui sont peut-être déloyaux. Alors, il existe une procédure qui est l'article 145, elle est citée. Vous entendrez parler de plus en plus de cet article, un peu
de
comme aux États-Unis, du code de procédure civile. Et qui est un article qui permet effectivement d'aller fouiller à l'intérieur des dossiers électroniques, à l'intérieur des mails, à l'intérieur des SMS, et pour voir effectivement si le salarié ne s'est pas comporté de manière déloyale ou s'il n'a pas commis une fraude. Et c'est là où, c'est dans cette procédure-là, où le droit de regard, parce qu'il y a une raison, que l'on veut séparer, bien évidemment, les mails professionnels, peut-être même les mails frauduleux ou les mails déloyaux, des mails personnels qui doivent toujours être protégés, quel que soit le comportement du salarié. Vous voyez ? Ça, c'est le droit de regard. La surveillance, c'est un autre système. La surveillance, ça veut dire que tous coupables, c'est-à-dire qu'on regarde tout le temps. Ça, c'est vrai que...
C'est Big Brother.
C'est Big Brother. Et là, on a un autre texte qui est la loi informatique fichier liberté, qui permet effectivement d'éviter cette surveillance de tous les jours, parce qu'on a le droit de pouvoir, à un moment donné, avoir, même dans le milieu professionnel, d'avoir un peu d'intimité. C'est par exemple le fait de mettre une caméra tout le temps sur le salarié qui ne peut rien faire. C'est pas possible.
Ouais.
Enfin, si ça existe, ce n'est pas licite. Et puis, il y a l'espionnage, qui est tout à fait autre chose. Là, on n'est plus dans un cadre du droit de regard, autorisation du juge. On n'est plus dans le cadre du droit de surveillance, la charte des systèmes. On est bien évidemment là dans la délinquance informationnelle.
Il y a certaines entreprises qui interdisent de consulter les mails perso. C'est-à-dire qu'il y a même certaines entreprises où, sur votre ordinateur, vous n'avez pas moyen d'accéder au serveur Gmail ou Yahoo, par exemple.
Alors, ça, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a un droit à la vie privée résiduelle. Vous avez le droit de pouvoir, à un moment donné, de manière courte, pas tout le temps, avoir accès, effectivement, à vos mails personnels, si, technologiquement... on peut le faire, parce que parfois, il y a des règles de sécurité. Si vous ne pouvez pas aller voir votre messagerie personnelle, vous avez le droit à une messagerie personnelle. C'est-à-dire que dans la messagerie professionnelle, si vous marquez personnel ou privé, à ce moment-là, immédiatement, et qu'il y a une charte, bien sûr, qui donne la règle de régulation, l'employeur ne peut plus les consulter sans votre autorisation.
Oui, même s'il a les moyens techniques de le faire.
Même s'il a les moyens
techniques. C'est-à-dire qu'il peut très bien aller le voir et ne pas vous en parler.
Ah non, mais là, il est en infraction. La seule possibilité...
Mais qui va vérifier?
À ce moment-là, il y a les logs. Il y a les traceurs. Vous savez, en informatique, il est très difficile de faire quelque chose de manière cachée. C'est-à-dire qu'on peut retrouver...
Mais ne regardez
effectivement...
pas comme ça, je suis parfaitement...
Non, je vous laisse dans une situation effectivement d'appréciation. Oh, pas du tout. Je ne voudrais pas vous menacer. Je veux dire simplement que là, on a des traces.
Oui. Monsieur a une question derrière vous, Alain Bensoussan.
Oui, bonjour maître. Qu'en est-il des
des applications telles que WhatsApp, telles que Facebook, Twitter, etc. Est-ce que l'employeur a ce droit de regard également?
De la même manière...
WhatsApp, qui est, on le précise, c'est une manière de dialoguer, c'est une application sur les smartphones.
Hein. Tout à fait.
De la même manière, on peut consulter son compte Facebook ou d'autres comptes, toujours dans cette sphère de vie privée résiduelle. Et à ce moment-là, l'employeur, s'il a organisé l'ensemble des éléments, eh bien, il y a uniquement la vie privée résiduel personnel qui est protégé et la vie professionnelle. Parce que souvent, il peut y avoir un compte Facebook professionnel, il peut y avoir un compte LinkedIn, il peut y avoir un compte Twitter où par exemple, le directeur commercial s'exprime à titre personnel, mais s'exprime aussi sur ses produits, est en relation avec l'ensemble de ses collègues. L'employeur a l'obligation d'organiser effectivement ces différents éléments.
Vous parliez tout à l'heure de cette obligation de donner une vie privée résiduelle. Est-ce qu'il y a un quota de temps?
Non, il n'y a pas un quota de temps.
Ce qu'on appelle dans votre profession un délai raisonnable.
Non, c'est vraiment un délai minimal qu'un délai raisonnable. Ouais. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit rester quand même exceptionnel.
Mais c'est combien sur une journée?
Peut-être une ou deux fois, de 4 ou 5 minutes.
Oui.
Je m'avance encore.
10 minutes.
10 minutes. Et je m'avance encore parce que je n'ai pas de jurisprudence qui permettrait effectivement de le coder là. Mais ça dépendra aussi de la situation. Imaginez un salarié, une mère de famille avec son enfant en difficulté. Oui. À ce moment-là, on va bien comprendre que la notion de résiduel dépend du contexte. Mais si c'est plus d'une heure par jour, tous les jours, c'est manifestement inacceptable.
Merci beaucoup Alain Bensoussan, spécialiste en droit des technologies, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parle des Césars avec Monsieur Bruno Crasse qui a déjà mis sa cravate. À tout de suite.
Europe Midi.
Pierre de Villeneuve.
Et c'est un grand monsieur qui vient d'entrer dans le studio Merlin d'Europe 1 et vous le connaissez depuis de longues années, c'est Bruno Crasse. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Vous êtes le monsieur cinéma d'Europe 1. Vous allez bien sûr aller au théâtre du Châtelet ce soir pour la cérémonie des Césars. On parle beaucoup des deux Saint-Laurent qui sont favoris. Est-ce que c'est ça le pronostic de monsieur Crasse?
Alors sur les nominations, je rappelais tout à l'heure qu'il y a 118 nominations, mais il n'y a que 21 Césars à l'arrivée, donc ça se répartit beaucoup. Hein. Il y a du brassage. Dans les nominations, c'est vrai que le Bonello arrive en tête avec 10 nominations et le film de Jalil Esper, YSL, arrive avec 7 nominations. Moi, je pense qu'ils vont s'annihiler l'un l'autre. Mm-hmm. Ils vont rafler évidemment des Césars techniques parce que qui aurait...
Pas de meilleur acteur.
Qui aurait costume, décor, photo, tout ça, c'est plutôt pour les Saint-Laurent parce que c'est extrêmement soigné comme cinéma. Alors, meilleur acteur, si. Pierre Ninet est un sacré outsider. En même temps, il a 25 ans. Il a
meilleur
tout le temps
Culliel.
D'avoir. Moi, je trouve que Pierre Ninet dessine quelque chose. Il dessine, il donne l'universalité au film en faisant un écorché vif qui se brûle les ailes. Donc, il est extrêmement sensible et émouvant dans le rôle. Gaspard Ulliel compose un Saint-Laurent qui ressemble plus à Saint-Laurent, mais je le trouve,
plastiquement,
entre guillemets, moins bon acteur. Je dis en double guillemets parce que j'aime beaucoup Gaspard Ulliel. Voilà, moi, ma préférence va à Pierre Ninet. Voilà pour les Saint-Laurent.
Des questions pour vous, Bruno Crasse. Madame.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Moi, je voudrais savoir combien de personnes votent.
4225 personnes à ce jour qui ont payé leur cotisation, car ils paient leur cotisation, qui est, je crois, aux environs de 150 euros par an, et ils reçoivent en échange, avant de voter, 130 DVD dans un joli coffret pour pouvoir réviser et voir les films. Absolument.
Et vous croyez que toutes regardent tous les films?
Alors voilà, ça c'est le grand débat.
C'est comme le jury Goncourt, on se demande s'ils lisent les 700 livres.
Voilà, là, le grand débat, c'est qu'ils ont un mois, et je pense qu'ils vont vers les films dont on parle. Je suis pas sûr que les votants ont été voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ils ont entendu parler, ils savent que le film a fait 13 millions d'entrées. Donc, ils vont vers les films qui ont la cote, ils se passent des coups de fil. T'as vu un tel. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce d'entonnoir qui va vers des films comme Les Combattants.
Mais c'est qui ces gens? C'est beaucoup de professionnels du cinéma.
Alors,
donc, ils voient beaucoup de films.
C'est tous les professionnels, c'est-à-dire tous ceux qui sont nommés votent.
Ils sont pas obligés de regarder les 130 DVD parce que fatalement, ils en ont vu dans leur métier.
Parce que justement, Pierre, ce qui est drôle, c'est que les gens du métier n'ont pas le temps d'aller au cinéma. Quand vous interrogez
les acteurs et les actrices,
absolument, c'est souvent... Alors, il y a des cinéphiles fous comme Yves Boisset, comme Bertrand Tavernier, qui adorent le cinéma. Il y a quelques acteurs, mais ils n'ont pas le temps d'aller voir le cinéma. C'est pas eux, c'est nous les critiques qui voyons le plus de films.
Et vous leur racontez les films?
Presque. Moi, j'en vois 350 par an, donc je peux... Sur 600.
350 par an, ça veut dire au moins un par jour.
Au moins par jour, voilà. Mais je
ne
vois pas le compte,
puisqu'il
y en a 600 qui sortent, et il faudrait en voir 15 par semaine, et moi j'en vois un par jour.
Combien vous envoyez maximum par jour?
Je peux en voir deux, maximum.
Pas plus?
Ah non, c'est rare.
Après, vous comprenez.
C'est rare.
Monsieur, là-bas, une question.
Moi, c'est sur la sélection des films, à la limite, comment se fait cette sélection? Pourquoi est-ce qu'il y a des laissés sur le côté alors qu'ils ont cartonné au box-office? Vous parlez alors, de qu'est-ce qu'on a fait au bon.
Alors là, la sélection, c'est qu'ils sont censés voir tous les films français. Donc à travers les DVD, et il y a même, je crois, au Balzac, des séances pendant un mois.
Balzac est un cinéma à côté des Champs-Élysées qui fait des films d'auteur.
Absolument, et on peut revoir tous les films. Et là, c'est sur la masse des films français sortis que les gens votent. Après, une fois qu'ils ont voté, il y a 118 personnes qui ressortent. Et après, il y a 21 catégories, donc 21 Césars qui sont attribués.
Mademoiselle.
Oui, bonjour. Souvent, quand on regarde les films américains, les films à succès américains, on dit oui, ça c'est un film à Oscar, ça c'est un personnage qui a fait un rôle à Oscar. Est-ce qu'en France, il n'y a pas aussi certains films qui sont des films à César, des films qui sont faits et quand ils sont faits, on se dit ah, ça c'est sûr, il a été fait pour avoir un César ou alors de manière à favoriser.
Alors c'est une bonne question, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis, parce que en France, ce qu'on peut noter, c'est que les Césars, c'est quelque chose de professionnel. C'est pour ça qu'il y a toujours de fausses polémiques autour des grosses comédies comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui ne sont pas du tout nommées, et puis des films d'auteurs, Les combattants, qui sont nommés. C'est comme si je disais, c'est curieux, il y a beaucoup de McDonald's et de burgers en France, et ils sont pas dans les guides rouges, bleus ou dans les Goemio. C'est normal. C'est pas ce qui se vend le plus et qui a le plus de succès qui est forcément bon. Donc c'est vrai que les Césars ont tendance à voter pour des films entre guillemets d'auteurs. Mais c'est normal parce que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est un excellent film. On ne boude pas son plaisir, il est drôle. Mais peut-être qu'il est moins fignolé que le Saint-Laurent de Bonello au niveau technique, au niveau de l'art pur.
Donc on récompense le fignolage et pas le nombre d'entrées.
On récompense le cinéma pur. Et la famille Bélier, par exemple, a le droit à 6 nominations, ce qui est plutôt bien. Mais la famille Bélier, c'est un film émouvant, drôle, que moi j'irai revoir 2 fois parce qu'on boude pas son émotion ni son plaisir. Mais c'est pas forcément de l'art au niveau du cinéma. Moins sans doute que des films chiadés comme Deux jours une nuit des frères Dardenne.
On récompense pas les entrées comme il y avait eu la polémique sur les ch'tis.
Oui, on récompense
et
pas les entrées.
Aujourd'hui d'ailleurs on a Danny Boone en maître de cérémonie.
Absolument.
Enfin, pas en maître de cérémonie.
C'est vrai,
en
c'est drôle, c'est drôle. Il va venir, je pense, de bonne humeur, mais il va être drôle. Je pense qu'il va nous faire un grand numéro, Danny Boone, parce qu'on peut attendre ça de lui. Maintenant. Et il peut arriver un jour où un film fait 12 ou 15 millions d'entrées et en même temps où il est nommé. On s'approche de ça. Regardez La famille Bélier. 13 millions d'entrées et 6 nominations au César. C'est rare qu'il y ait les deux à la fois, public et professionnel.
Peut-être parce que c'est pas vraiment une comédie.
C'est pas vraiment une comédie, mais ça reste une comédie. Puis c'est un film quand même léger. C'est pas un film d'auteur comme le Saint-Laurent de Bonello.
Mais c'est pas non plus les ch'tis. Madame a une question.
Oui, moi, j'avais pas fini tout à l'heure sur les 4200.
Ah, pardon, madame.
Sur les 4225. Sur 4225. Est-ce qu'elles votent toutes? Et est-ce qu'il y a des techniciens qui votent parmi eux?
Alors, évidemment, tous les techniciens du cinéma votent, tous les professionnels du cinéma votent, les critiques ne votent pas, sauf exception. Il faut être dans la profession et être adoubé par 2 ou 3 parrains pour pouvoir voter, puis payer sa cotisation. Tout le monde vote. Et alors, ce qui est drôle, c'est que techniquement, il y a le vote par Internet, mais il y a aussi le vote par papier, pour ceux qui n'auraient pas encore d'ordinateur. Donc, jusqu'au dernier moment, on vote. Et là, je crois que jusqu'à hier soir, on a pu voter. Mmh. En tout cas, par le net.
Vous avez fini?
Monsieur.
Monsieur, derrière vous.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour.
D'après ce qu'on voit, vu les entrées, les films que vous nous présentez, on a l'impression quand même que le cinéma français se porte bien.
Oui, le cinéma français se porte bien. Il y a eu 208 millions d'entrées en France cette année avec le cinéma américain, sauf qu'on était moitié-moitié. D'habitude, le cinéma américain fait en gros 60% et nous 40%. Là, on était à peu près à 50-50. Et puis, ce qu'on a remarqué, ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est vrai qu'il y a une nouvelle vague. Moi, j'ai fait mon petit calcul avec des films comme Respire, comme Hippocrate, comme Party Girl, comme Elle l'adore et autres, on arrive à 14 nominations, donc il y a une jeune génération. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que quand vous voyez dans les acteurs et dans les actrices, vous avez un Pierre Niney qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans et qui est déjà cité dans les meilleurs acteurs, pas dans les meilleurs jeunes espoirs. Pareil chez les filles. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle vague qui débarque comme ça dans le cinéma français qui fait du bien. En même temps, il y a des gros échecs. Régis Varnier, avec son Temps des aveux, n'a pas atteint 100 000 entrées. Michel Hazanavicius n'a pas atteint 70 000 entrées avec The Search. Donc c'est comme si la jeune génération poussait un peu les anciens.
Alors, il y a Bruno, notre camarade Eric Neuf du Figaro, qui a fait un questionnaire plutôt marrant ce matin,
ouais,
je vous le
citer,
recommande.
Hein.
César du film le plus rasoir.
Moi, j'ai pas honte de le dire, parce que j'ai été élevé comme un cinéphile, donc ça me rend encore plus sûr de moi. C'est le Godard pour moi. Je me souviens plus ce qu'a dit Eric, mais le Godard, c'est n'importe quoi.
Oui.
C'est un pur navet, on a le droit de le dire, même si Godard est un grand metteur en scène.
Oui, il parle du chien dans le Godard. Mauvais joueur, le cabot de Godard a hurlé à la mort, quel mépris.
C'est drôle.
César du meilleur animal, d'ailleurs.
Oui, César du meilleur animal. Je sais pas, il y a une vache dans un film, je sais plus dans lequel, mais oui, mais d'ailleurs, vous savez que il y a le comment ça s'appelle, le dog à Cannes. On remet un prix à Cannes pour le meilleur chien dans le cinéma. Il y a souvent des chiens dans le cinéma.
Enfin, pour terminer, César du meilleur film avec Cadmerade, parce qu'il est tout le temps là.
Alors là, ils sont de mauvaise foi.
Ah bon?
Ils sont de mauvaise foi parce que c'est vrai que Bis n'est pas un chef-d'œuvre, je l'ai dit ici, mais Disparu en hiver, qui est un film dramatique, où il y a notamment Géraldine Pellas, et lui est un très bon film, un très bon premier film. Donc ils sont de mauvaise foi, ils mettent tout, ils jettent le bébé avec le dubin, comme on dit.
Oui, Barbie, c'est même pas un navet, c'est un fenouil. Merci Bruno Kras.
Avec plaisir.
Et vous êtes tout habillé pour le théâtre.
Absolument,
du Châtelet.
Absolument, c'est parti.
Dans un instant, c'est le débat d'Europe Midi. Faut-il, céder à la tentation du tourisme médical en France, oui ou non? Est-ce une aubaine ou un danger? À tout de suite.
Europe Midi.
Pierre de Villeneuve.
Et c'est l'heure du débat d'Europe Midi. Son nom, Jean de Kervas-Douai. Il est économiste et il a remis un rapport au ministre de la Santé. Dans ce rapport, il est dit que le tourisme médical en France pourrait rapporter un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros et conduire à la création de 25 à 30 000 emplois. Est-ce une aubaine dans le sens où les finances de la santé publique sont ce qu'elles sont, on les connaît, et que l'école de santé française brille à travers le monde? Alors pourquoi ne pas en profiter? Ou alors est-ce un danger? Danger pour l'hôpital public et son fonctionnement, son système paritaire, son système social qui met à égalité tous les patients. On craint bien sûr la corruption et les dérives. Est-ce une aubaine ou un danger ce tourisme médical en France? 39-21, à vous de nous le dire pendant que nous accueillons nos deux débatteurs, Frédéric Valletoux, qui entre dans ce studio, qui se dirige vers sa place, il est le président de la Fédération hospitalière de France, et Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Messieurs, installez-vous. Bienvenue à vous deux. On va parler pendant une demi-heure de cette épineuse question. D'abord, vous avez chacun une minute pour présenter vos arguments. Frédéric Valletoux, c'est à vous.
Accueillir des patients étrangers, qui est d'ailleurs une expression plus adaptée que le tourisme médical, c'est finalement la reconnaissance de l'excellence française. On a des hôpitaux qui attirent, on a une médecine qui attire à l'étranger. De toute façon, dans beaucoup de pays, il y a l'émergence d'une classe moyenne, il y a aussi des pathologies nouvelles de plus en plus, cancers, etc., de plus en plus marquées. Donc de toute façon, c'est des gens qui, parce que souvent dans leur pays, il y a un déficit de leurs propres hôpitaux, vont aller à l'étranger. Et donc plutôt qu'ils aillent en Allemagne, en Suisse, au Canada ou ailleurs, pourquoi pas les accueillir en France si ça peut, en plus, venir abonder le financement du système français, puisqu'il ne s'agit pas de faire de la place au détriment des patients français à des patients étrangers, mais il s'agit de les accueillir en plus dans des conditions qui soient acceptables et attractives.
Voilà l'argumentaire de Frédéric Valletoux. Christophe Prudhomme, c'est à vous.
Écoutez, je crois que l'auteur du rapport et que M. Valletoux sont hors du temps et hors du monde. Que se passe-t-il aujourd'hui dans les hôpitaux? Les hôpitaux français ne sont pas capables de répondre à une épidémie de grippe qui, somme toute, est une épidémie classique. On a des épidémies de cette ampleur tous les 5-6 ans. La dernière était en 2009. Et aujourd'hui, l'hôpital est au bord de la rupture. Il a fallu qu'on déclenche un plan hors-sec. Hein, le plan Orsan, c'est le plan hors-sec des hôpitaux. Donc, il y a un état de délabrement de nos hôpitaux aujourd'hui qui fait qu'on devrait plutôt se préoccuper de pourquoi on est dans cette situation avant d'envisager qu'on va combler le fameux déficit avec des patients étrangers. Qui plus est, les patients étrangers, on en accueille déjà aujourd'hui, mais ceux qui viennent et qui sont solvables. Vous savez, moi, je participe à de la coopération internationale. Je travaille dans un SAMU et on a aidé un certain nombre de pays à monter des SAMU pour qu'ils soient autonomes chez eux. Moi, j'imagine pas que les pays du Golfe, avec l'argent qu'ils ont, ne puissent pas bénéficier d'une coopération, y compris payante, de notre part, pour qu'on puisse construire chez eux des hôpitaux qui permettent qu'ils soient soignés chez eux, y compris qu'on puisse former des médecins, envoyer des médecins français ponctuellement pour former, aider à former, à spécialiser leurs médecins. Mais écoutez, le tourisme médical, non.
Mmh. trouver la manne ailleurs et pas de tourisme médical, puisque ça serait au détriment de l'hôpital français, nous dit Christophe.
Faut pas tout mélanger. Il y a une épidémie de grippe. OK. L'épidémie de grippe, je veux dire, n'incombe pas qu'à l'hôpital. Les gens vont à l'hôpital aujourd'hui parce que parfois, il n'y a plus personne en cabinet de ville. Et surtout, en période de vacances scolaires, il y a plus de cabinets de ville fermés, de médecins généralistes absents que. Donc les gens vont vers l'hôpital. Bon, OK. C'est pas parce qu'il y a une épidémie en ce moment, il y a un pic d'épidémie, qu'il faut mettre de côté ce sujet, qui est un sujet de fond. Enfin, l'Allemagne s'est lancée dans une politique d'accueil des patients étrangers depuis une dizaine d'années. On en voit les résultats positifs. Et positifs pour qui ? Il n'y a pas des Allemands qu'on ne soigne pas parce qu'il y aurait des patients étrangers qui viendraient. Positifs pour les hôpitaux parce que tout ça, et puis, effectivement, vient abonder.
Mais c'est là que vous n'êtes pas d'accord.
Du service public. On va se comparer avec l'Allemagne parce qu'on nous bassine avec l'Allemagne.
Moi, je vais vous donner un exemple.
Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a beaucoup de personnes âgées aux urgences qui viennent, c'est que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les fameuses maisons de retraite dites médicalisées, aujourd'hui, entre la France et l'Allemagne, il y a moitié moins de personnel dans ces maisons de retraite en France qu'en Allemagne. Donc, créons des emplois dans les maisons de retraite pour qu'effectivement les personnes âgées soient bien traitées dans leur maison de retraite et ne viennent pas aux urgences. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a à rénover notre système de santé. Comme vous le dites, ça ne fonctionne pas bien en ville, ça ne fonctionne pas bien à l'hôpital. Vouloir régler le problème du financement de l'hôpital avec des patients étrangers, avec une logique commerciale. On va créer une filiale commerciale des hôpitaux, on va faire de la publicité, il faut que les médecins se vendent. Mais écoutez, moi, je n'ai pas envie de faire de la publicité pour avoir plus de patients aux urgences. C'est ridicule.
On mélange un peu tout. Je crois qu'on a, une médecine d'excellence et qui attire au niveau mondial. Il y a un marché mondial parce qu'il y a de toute façon des pays qui aujourd'hui...
La médecine n'est pas un marché. C'est ça qui nous différencie.
Écoutez, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent l'avion pour aller se faire soigner. Donc, ils vont le prendre pour aller à Londres, ils vont aller à Berlin, ils vont aller partout.
Il y a des Français qui vont se faire soigner les dents en Hongrie.
Parce qu'en France, on a une pudeur.
C'est très bien. Parce que c'est moins cher.
Parce que c'est moins cher, mais c'est n'importe quoi. Et quand ils reviennent en France, aucun dentiste français ne veut les prendre en charge quand ils ont des complications, quand ils ont été soignés en Hongrie.
Il n'y a pas de SAV.
Ça c'est un vrai problème, vous voyez. Moi je travaille au SAMU 93, j'accueille des patients riches qui viennent de l'étranger à Roissy ou au Bourget. Écoutez, je suis un peu je suis choqué parce qu'on a de l'argent, on arrive en avion au Bourget et on a un lit y compris avec sa suite, on vide des chambres pour pouvoir être traité dans un hôpital français.
Je veux bien la caricature à tout
prix. Non, c'est pas de la caricature, c'est l'hôpital de Boulogne il y a quelques mois.
Ambroise Paré,
oui, c'est pas de la caricature,
c'est le sujet,
qui effectivement, c'est le seul exemple que l'on nous met toujours en avant. Mais je pense qu'il faut revenir.
C'est peut-être le seul exemple, pardonnez-moi de vous couper, parce que pour l'instant, on est quand même dans un système qui est aujourd'hui,
si vous voulez, cet exemple-là, pour y revenir rapidement, c'était un service qui devait être fermé. C'était un week-end du 8 mai. De toute façon, les personnels n'étaient pas là. Le service était fermé. Et donc, on l'a réouvert pour une personne qui a payé beaucoup plus cher que ne l'aurait payé un patient français.
J'étais de garde au SAMU en Seine-Saint-Denis. J'avais besoin de lit orthopédie. On n'a pas rouvert les lits pour mes patients.
Moi, je pense qu'à un moment, il faut être fier de notre système de santé. Et si notre système de santé attire, et effectivement, aujourd'hui, on est dans. Vous dites qu'il n'y a pas de concurrence, mais on voit beaucoup de médecins, de grands médecins qui aujourd'hui sont débauchés, entre guillemets, par des hôpitaux à l'étranger. On laisse partir des talents parce que parfois, nous, à force de on a un système, à force de le bureaucratiser et de le tirer vers le bas, à force de ne pas vouloir le valoriser, effectivement, on dégoûte certains. C'est dommage. On a une médecine qui attire. On a des gens qui sont prêts à venir se faire soigner. C'est tout à notre honneur et tout à notre bénéfice. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider des pays à monter des systèmes de SAMU, etc. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger.
Quand Christophe Prudhomme, il y a 5 minutes, dit que la santé n'est pas un marché, si, c'est un marché.
Aujourd'hui, vous savez, la France, il y a un marché, il y a un secteur public que moi je défends, que la Fédération hospitalière de France on défend. Il y a un secteur privé, des cliniques. Il y a des systèmes européens.
Il y a des chirurgiens de l'hôpital public qui vous reçoivent de manière privée et qui font les honoraires
aujourd'hui, le rapport sur l'activité privée de l'assistance publique vient de sortir.
Il y a un marché de la santé.
Attendez. À l'hôpital public, vous êtes président de la Fédération hospitalière de France. L'hôpital public, dans mon hôpital, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Vous avez des médecins qui sont payés par le service public à temps plein et qui passent leur temps à faire de l'activité privée et qui génèrent 500 000 euros.
Amalgame.
par médecin 500 000 euros de revenus d'activité privée à l'hôpital public. C'est scandaleux.
Vous faites toujours des amalgames comme ça.
Mais non, ce n'est pas les amalgames.
Vous savez très bien que c'est encadré. Vous savez très bien que c'est encadré. Vous savez très bien qu'il y a des commissions. Vous savez très bien que l'actuel gouvernement.
Non, non, c'est les copains et les coquins, les commissions. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça.
Il y a un côté poujadiste dans votre expression qui est dommageable parce que je crois qu'on est sur un vrai sujet.
Moi, je suis attaché au service public sur les valeurs humanistes.
Je suis attaché sur un vrai sujet.
C'est pas du poujadisme.
Je suis attaché au service public. Mais simplement, je ne fais pas d'amalgame permanent. Donc, si vous voulez, il y a effectivement des dépassements d'honoraires à l'hôpital. On l'a suffisamment pointé du doigt pour effectivement ne pas dire qu'on méconnaît le sujet. Ça a été mieux encadré que ça ne l'était ces dernières années.
Et c'est de toute façon,
transparent, puisqu'il y a une commission et que tous les chiffres des dépassements de chaque médecin sont connus.
Mais c'est légal, si vous voulez, mais c'est immoral, comme ce qui se passe au Luxembourg. C'est immoral, même si c'est légal.
Faut pas dire que c'est les coquins, les copains, etc.
Mais si on le supprime, je parle sous votre contrôle, si on le supprime, nos médecins iront à l'étranger.
Non, nos médecins, ils n'iront pas à l'étranger parce qu'ils ont le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, ils ont leur salaire public.
Non,
et en plus, ils profitent du plateau technique de l'hôpital public.
Mais si vous supprimez les honoraires privés, vous n'êtes pas d'accord que les médecins qui ont du succès vont aller à l'étranger?
Allons jusqu'au
bout. Moi, j'en connais qui ont ce
discours. Non, mais attendez, allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Donc, allons jusqu'au bout de votre raisonnement.
C'est une question, c'est pas un raisonnement.
Non, mais allons jusqu'au bout de votre raisonnement. Donc, demain, pour se faire soigner en France, il faudra plus la carte vitale, il faudra la carte bleue. Ça commence à être la réalité. Quand aujourd'hui, appelez l'hôpital Cochin, pour vous faire opérer de la prostate, et vous verrez, si vous voulez vous faire opérer de la prostate à l'hôpital Cochin, c'est soit 6 à 8 mois de délai, soit vous payez 4 000 euros.
En tout cas, il faut avoir une bonne complémentaire santé.
Cette vision,
qu'une petite partie
de l'hôpital est assez surprenant de quelqu'un qui se dit défendre le service public. Enfin, le service public hospitalier, c'est quelque chose qui, porte la prise en charge des Français en matière de soins. C'est de la recherche, c'est effectivement de l'excellence médicale, c'est des médecins qui nous sont enviés partout dans le monde et qui sont recherchés parfois.
Pour ça qu'ils vont à l'étranger?
En tout cas, ils peuvent avoir la tentation de le faire. Il faut rappeler quand même que dans les hôpitaux français, il y a un quart de postes de praticiens hospitaliers qui sont vacants. Et donc, on fait appel à quoi? À des intérimaires qui coûtent cher au système. On fait appel à nous-mêmes à des médecins étrangers parce que voilà.
Ouais. Parce
donc,
qu'on, si vous voulez, notre système, pas,
que notre système français ait des difficultés, c'est une chose. Mais vouloir par principe, au nom de je ne sais pas quel argument, et pour revenir au débat, dire on ne doit pas accueillir des patients étrangers qui seraient demandeurs de venir se faire soigner dans des hôpitaux, j'avoue que c'est une posture qui est assez...
Oui, vous savez, monsieur Valtoux, c'est parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Quand on oublie les valeurs...
En quoi
les valeurs de la médecine sont des valeurs humanistes. Le serment d'Hippocrate, dit clairement qu'on ne fait pas de différence entre le patient, quel que soit le poids de sa bourse. Et ça pose un problème aujourd'hui. Et si justement on renonce aux valeurs, eh bien c'est l'évolution de la société qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que demain on soit comme en Grèce, où quand vous répondez pas à la première ligne de chimiothérapie, on vous renvoie à la maison parce que le service public a plus d'argent et c'est à la famille de s'occuper du patient. Oui, demain on sera dans cette situation si on continue comme ça.
Là encore, mais de quoi vous parlez? Vous mélangez tout.
Messieurs, un téléphone qui pour vous interroger. Je vais y arriver. Excusez-moi, c'est la fin de la semaine. C'est Frédéric du Val-de-Marne qui nous appelle. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je voulais intervenir vis-à-vis du débat. Déjà, bonjour à tous. Et pour préciser que moi, ma femme qui a accouché dernièrement, elle a eu une consultation privée à l'hôpital via un professeur, parce que sinon, c'était compliqué d'avoir un rendez-vous avec ce professeur-là. Donc, il y a déjà, aujourd'hui en France, une médecine à double vitesse, et c'est déjà présent, c'est déjà quelque chose qui existe. Donc pourquoi pas des gens de l'étranger, si ça peut nous combler notre trou de la sécu, bien au contraire. Pourquoi fermer ces portes-là, puisque les professeurs, les grands médecins le font déjà à titre privé pour eux.
Christophe Prudhomme, pour répondre à monsieur.
Pour le bien public.
On va vous répondre, Frédéric.
Je trouve que c'est anormal que ce monsieur ait obligé de payer pour sa femme, pour une consultation. L'hôpital public doit être financé par la sécurité sociale dans le cadre de la solidarité. Il ne doit pas y avoir de mélange des genres. On est dans une société où tout est marchandise. Le corps est marchandise, la santé est une marchandise, mais où va-t-on? C'est à contre-sens des valeurs humanistes de la médecine depuis des siècles et des siècles.
J'aurais quand même rappelé que le déficit de l'assurance maladie, c'est 7 milliards d'euros, et qu'à force de vouloir rien faire, on laisse effectivement se fatiguer un système qui aujourd'hui est épuisé. Enfin, je veux dire, à ne pas vouloir poser la question de l'organisation des temps de travail à l'hôpital, parce que c'est un sujet tabou. Pas vouloir poser la question de l'accueil des malades étrangers, parce que c'est un sujet tabou, etc., etc. Enfin, on finit par tuer soi-même l'hôpital. Enfin,
non, on tue pas l'hôpital.
Et si on le tire vers le bas,
ce sont les restrictions financières, sur les restrictions financières. Et justement, on va prendre un exemple sur lequel on va être d'accord. Pourquoi aujourd'hui les hôpitaux sont obligés de rembourser des emprunts toxiques indexés en francs suisses? Quand vous payez aujourd'hui un taux d'intérêt à 15%, effectivement, ce sont des emplois en moins. Mais pendant ce temps-là, les banques font de gros bénéfices. La question, c'est où va l'argent? Moi, je préfère que l'argent aille pour la santé, parce que c'est pas un déficit de la sécurité sociale, c'est une insuffisance de ressources.
Sur ce combat, on va peut-être le mener ensemble, parce que effectivement, on plaide pour que le gouvernement prenne à bras le corps ce sujet des emprunts toxiques à l'hôpital, et j'espère être entendu. Donc, tirons.
Et ben, on profite du débat d'Europe Midi pour lancer un appel au gouvernement. Et
nous, on est d'accord.
On va en profiter pour faire une première pause, et on revient juste après avec vos questions au 3921. Et en studio, je vois que les mains se lèvent.
Europe 1.
Europe Midi, Pierre de Villeneuve.
Face à face entre Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France, et Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, sur ce thème, faut-il accueillir tous ces gens fortunés pour se faire soigner en France, oui ou non, est-ce une aubaine ou un danger? Je ne résiste pas à un commentaire sur Europe 1.fr. Pourquoi pas, avec des étrangers, les hôpitaux seront payés cash, alors qu'avec la sécurité sociale, c'est à perte de vue. Voilà. Pour ce commentaire, réaction.
C'est pas forcément que des patients fortunés. Enfin, je veux dire, c'est caricatural de dire qu'il y aurait que des émirs qui voudraient venir se faire soigner. Enfin, on est sur des classes. Enfin, il y a quand même beaucoup de pays dans lesquels il y a des classes moyennes qui émergent, et dans des pays où il y a des systèmes de santé qui sont déficients. Alors peut-être que ça n'a qu'un temps, peut-être que c'est conjoncturel et que dans quelques années, parce qu'il faut aussi mener des actions de coopération, on va voir sortir de terre dans certains pays effectivement des systèmes de soins plus efficaces. Mais aujourd'hui, il y a des classes moyennes qui recherchent à venir en Europe ou aux États-Unis pour se faire soigner. La question, c'est est-ce que on fait comme si ça n'existait pas et on se positionne pas alors que notre médecine est recherchée et que ça existe déjà dans les hôpitaux français? Un peu en catimini, sans qu'on le dise, etc., sans qu'on le valorise surtout, ou est-ce que finalement, sans que ça nuise au service public, sans que ça nuise aux valeurs du service public, de cette prise en charge de tous, quels que soient les revenus de chacun et quelle que soit la pathologie de chacun, est-ce qu'on en tient compte, et finalement, on accueille ces patients-là et on accepte de les faire payer un peu plus cher.
Sans que ça nuise au service public.
Bien sûr, sans que ça nuise.
Non, ça, c'est un vœu pieux, et nous sommes nombreux à le penser. Le professeur Grimaldi s'est exprimé aussi là-dessus. Nous sommes nombreux à défendre ces valeurs du service public. C'est-à-dire que sélectionner les patients en fonction de leur niveau de revenu, on nous parle classe moyenne, mais ces classes moyennes, on voit très bien ce que ça donne aux États-Unis. C'est-à-dire aux États-Unis, vous avez effectivement sur la côte Est les meilleurs hôpitaux du monde, vous pouvez être soigné si vous avez un petit peu d'argent, mais dans le quartier de Chicago dont est originaire Monsieur Obama, les indicateurs de santé publique sont les mêmes qu'en Afrique. Et globalement,
enfin là vous comparez
globalement les États-Unis, quand l'Organisation mondiale de la santé classait les pays pour la totalité de leur population, étaient au même niveau que le Costa Rica. Voilà ce que donne ce type de politique. Donc coopération, oui, mais business avec des patients étrangers, y compris des classes moyennes, non.
Business, non, nous dit Christophe Prudhomme. Monsieur a une question.
Oui, bonjour messieurs. Ben moi, le fait d'envisager cette possibilité pour résoudre les problèmes me fait penser à une phrase de Coluche sur la médecine qui disait justement, en France, on arrive à soigner le malade, à soigner la maladie, mais on finit toujours par tuer le malade. Je me demande si c'est pas une mauvaise idée, en fait. Parce qu'effectivement, il faut voir comment c'est fait, comment c'est mis en place. J'ai peur que ce soit au détriment de certains patients qui n'auront pas les moyens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment envisager. On dit oui, mais c'est déjà le cas. C'est pas parce qu'on a passé déjà une médecine à deux vitesses qu'il faut embrayer sur la troisième et ouvrir les vannes. Faut voir comment c'est mis en place. L'idée peut paraître évidemment séduisante. Mais dans l'air du temps, j'ai peur que ce soit avec de nombreux laissés pour compte, et vous ne pouvez pas dire que ce ne sera pas le cas.
Avec toute une étymologie automobile, hein, j'ai bien remarqué. Frédéric Valtour.
Oui, enfin, on joue un peu sur les peurs et on agite pour moi des chiffons rouges. C'est-à-dire que quelque part, cette médecine française qui est assise sur des valeurs fortes et notamment d'humanisme, pour reprendre ce mot-là, on dirait à des gens, ben non, vous êtes cadre moyen d'un pays d'Afrique noire, vous voulez venir vous faire opérer ou emmener votre femme se faire opérer, on vous refuse. On vous refuse parce que finalement, nous, les filières de patients étrangers, on ne les prend pas. Voilà. Et c'est ça, la médecine française humaniste, ouverte au monde, etc. Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, si les gens font la démarche de vouloir être soignés en France, eh bien, il faut être capable de les accueillir. Et qu'effectivement, il faut les accueillir parce qu'ils ne sont pas cotisants à l'assurance maladie. Et donc, ils ne peuvent pas avoir, entre guillemets, les mêmes droits qu'un cotisant national. Eh bien, à partir de là, il a un système de paiement qui est dérogatoire. Ça ne veut pas dire qu'on va les assassiner et qu'on va multiplier par 3 les tarifs. Ça veut dire qu'on peut accepter de faire payer les 10, 20, 30% selon les pathologies et les actes qui sont 10, 30% supplémentaires.
Quand ils en ont besoin, on le fait déjà aujourd'hui. La différence, monsieur Valtoux, entre ce qu'on fait aujourd'hui, dans le cadre effectivement humaniste, quand les gens ont besoin, ils peuvent s'inscrire, on leur fait un devis et ils peuvent venir. Là, c'est complètement différent. Moi, j'ai lu avec attention le rapport de monsieur de Carvaz-Doué. On parle de filiales commerciales des hôpitaux, de publicité,
non, ça n'a rien à voir.
D'hôtellerie qui soit aux normes. Non, mais attendez, c'est quoi ça?
Mais ça, c'est l'hôpital américain de Neuilly.
Non, mais ça n'a rien à voir. L'histoire des filiales.
L'hôpital américain de Neuilly.
Si je peux dire un mot.
Qui d'ailleurs est un paradoxe.
Voilà, non, mais aujourd'hui.
Dans tous les hôpitaux.
Si je peux dire un mot sur les filiales commerciales, parce que là aussi.
Non, mais j'ai bien lu le rapport. Mais alors, monsieur de Carvaz-Doué, vous savez, ses experts. Monsieur de Carvaz-Doué, il faudrait qu'il prenne sa retraite.
Moi, je ne défends pas monsieur de Carvaz-Doué.
Non, mais oui, c'est lui l'auteur du rapport. Il y a 30 ans, il nous expliquait qu'il fallait diminuer le nombre de médecins en formation,
ça permettrait
effectivement de diminuer les dépenses. Oui. De diminuer les dépenses. Donc, des experts qui se sont trempés il y a 30 ans, ils continuent à se tremper aujourd'hui. Donc, ils arrêtent de fondre des rapports et qu'ils écoutent. Les meilleurs experts sont les gens de terrain comme moi. Aujourd'hui, moi, j'exerce en Seine-Saint-Denis. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est déjà une médecine à deux vitesses. Parce que mon hôpital, il n'a pas la même hôtellerie que l'hôpital Georges Pompidou ou que d'autres hôpitaux
c'est
de l'Ouest parisien.
C'est lequel votre hôpital?
L'hôpital Avicenne à Bobigny, l'ancien hôpital franco-musulman. Vous voyez, ça s'appelait comme ça avant. Donc, déjà aujourd'hui, il y a une médecine à plusieurs vitesses. Ce qu'on souhaite, c'est déjà qu'on puisse assurer l'égalité de traitement de la population française, qui a un droit constitutionnel. Ensuite, les patients étrangers, on en accueille. Moi, dans l'hôpital, on en accueille beaucoup, les patients étrangers.
Je peux vous dire quelque chose.
Et on les accueille correctement. Et effectivement, eh bien, ils payent sur la base de devis qui leur sont faits quand ils ont besoin. Et voilà, il n'y a pas besoin de créer de filières
commerciales.
Rapidement,
la réponse de Frédéric Valtoux et madame qui veut poser une question.
Oui, non, sur les filières commerciales, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas besoin de créer une filiale commerciale pour accueillir un patient étranger. La question des filiales commerciales, qui est d'ailleurs prévue dans la loi Macron, la question des filiales commerciales, c'est pour permettre à des hôpitaux de répondre à des appels d'offres étrangers pour répondre justement à la... Quand, par exemple, la Côte d'Ivoire a besoin de créer 4 CHU, ils se tournent vers les grands hôpitaux européens ou nord-américains ou d'ailleurs pour leur dire « Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et donc aujourd'hui, les hôpitaux français juridiquement ont du mal à répondre à ces questions, d'où la réponse qui a été apportée des filiales commerciales. Ça n'a rien à voir avec la prise en charge des patients étrangers.
Madame a une question en studio.
Oui, bonjour. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une réglementation justement pour éviter toutes les dérives possibles? Parce que cette aubaine financière pourrait aider justement les hôpitaux qui ont des gros, gros problèmes.
Enfin, c'est tel que c'est a priori conçu dans le rapport Carvaz-Doué, mais le rapport Carvaz-Doué peut être corrigé aussi s'il y a des points qui ne fonctionnent pas, mais c'est que effectivement cette contribution des patients étrangers viendrait abonder le budget des hôpitaux. Et donc financer quoi finalement? Les missions de service public qui sont le cœur des hôpitaux. Enfin, les hôpitaux sont là pour soigner, et les hôpitaux sont là pour soigner tout le monde, quelle que soit la pathologie, quelle que soit effectivement la condition financière de chacun.
C'est donc à partir de là... C'est comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire qu'effectivement ils viendront à la pitié salpêtrière à l'hôpital Georges Pompidou, mais ça ne mettra pas de moyens supplémentaires à l'hôpital de Guéret, à l'hôpital...
Mais attendez, mais ça n'a rien. Mais
qu'est-ce qu'il vous dit?
Non, mais ça mettra
des. Les budgets des hôpitaux sont autonomes et qu'aujourd'hui on est payé à la performance.
Non, mais non, attendez, vous mélangez tout.
Mais
c'est
si,
incroyable.
On est payé à la performance.
Mais
dans
vous
les
passez
hôpitaux.
Votre temps, vous
non,
mélangez toujours comme ça.
Comment est-ce qu'on évalue la performance?
La performance, eh bien, c'est sur ce qu'on appelle la tarification à l'activité, c'est-à-dire que plus on produit de soins, plus l'hôpital touche d'argent. C'est comme ça aujourd'hui qu'on est financé. C'est la logique.
Je réponds à la question de madame parce que là,
Vrai ou c'est pas vrai? Moi, je veux savoir.
Non,
bien sûr, c'est vrai.
Mais le financement, c'est le financement à l'activité. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, les hôpitaux avaient ce qu'on appelait une dotation globale.
Ouais.
Et donc, on reconduisait à l'infini des budgets.
En gros, aujourd'hui, une prime au mérite?
Non, c'est pas une prime au mérite, c'est une prime à l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a effectivement, si vous avez moins d'actes dans un hôpital, Mais non, on ne ferme pas. C'est le budget diminue. Si vous avez plus d'actes, le budget augmente.
Que plus il diminue, plus il diminue.
C'est-à-dire qu'il y a une corrélation.
Les patients ne sont pas les mêmes.
Mais
les patients corrélation... qui apprennent en charge
attendez,
en Seine-Saint-Denis ne sont pas les mêmes que ceux de l'Ouest parisien.
Monsieur Prudhomme, il lance 10 débats à la fois et en mélangeant tout. Alors si on essaie de répondre... Parce qu'on était parti sur la question de madame.
C'est des questions inhérentes, monsieur.
Oui, oui. Non, mais je suis d'accord. Mais je répondais à la question de madame. En l'occurrence, si quelqu'un vient dans un hôpital parisien, un patient étranger, vient dans un hôpital parisien, ça viendra abonder le budget de la PHP. Alors évidemment, ça viendra pas abonder le budget de l'hôpital de Guéret, parce qu'effectivement, chaque établissement, ben non, il y a qu'un seul, chaque hôpital a son propre budget. Sur la question de comment sont... Non mais...
Faire la publicité
après...
pour l'hôpital de Guéret pour qu'il se vende à l'étranger, ça va être compliqué.
L'hôpital,
et alors à la souterraine, ça va être
mais
encore
attendez,
plus compliqué.
Pourquoi l'hôpital de Guéret ne pourrait pas accueillir des patients étrangers là,
Bien sûr, il y a l'aéroport à côté, c'est facile.
De vous caricaturer, là.
Il y a l'aéroport de Châteauroux qui a été fermé.
La France est la première destination touristique au monde. Donc il y a beaucoup de touristes sur tout le territoire et pas que à Paris.
On va contacter l'office de tourisme de Guéret, on va voir.
Voilà, exactement. Demandez-leur.
Tous les deux au lieu de
rayer. Et puis, il y a bien sûr les hôpitaux, il y a une solidarité financière. Hôpitaux qui ont le moins d'activité parce qu'ils sont sur le bassin démographique. Je reprends l'hôpital de Guéret, que je ne connais pas sa situation financière. Enfin, j'imagine qu'il est dans un bassin démographique moins actif que que Paris. Et donc, à partir de là, il y a une solidarité financière qui fait qu'on maintient effectivement un hôpital.
Non, on a menacé de fermer sa radiothérapie pour soigner le cancer parce qu'il n'avait pas le volume d'activité suffisant pour que ça soit rentable. Voilà, donc les patients qui ont le cancer dans la Creuse, il faut qu'ils aillent, je ne sais pas trop où, mais loin de chez eux.
Donc, si vous voulez, l'offre hospitalière évolue, que la carte des services évolue, quelque part, c'est aussi, c'est logique. Enfin, moi, je connais des petites maternités, les gens se détournaient de leur propre maternité pour aller dans la maternité de la grande ville dans laquelle ils avaient plus confiance.
Vous parlez de logique, c'est vraiment ce qui vous oppose, c'est même pas de la logique, c'est de l'idéologie. Vous parliez de vouloir valoriser, les médecins. Monsieur ne se sent pas forcément valorisé par le fait de marchandiser son travail. Apparemment, c'est pas ce qu'il cherche. Donc, voilà, je pense que vous...
Merchandiser,
exactement.
Merchandising.
Ouais. New York, là.
On va faire des flyers
monsieur,
pour aller vendre.
Monsieur, il sait défendre ses intérêts. Nous, ça fait des mois qu'on dit qu'il y a un problème d'organisation du temps de travail à l'hôpital. Enfin, moi, je suis pas hospitalier, je suis élu, je suis maire de Fontainebleau. Et donc, à partir de là, si vous voulez, je défends l'hôpital public. Et depuis des mois, on essaie de plaider au gouvernement le fait qu'il faut poser la question du temps de travail.
Défendre l'hôpital public. Dans le privatiser.
Mais qui a parlé de privatisation? Attendez, j'ai jamais parlé de privatisation. De quoi vous parlez là?
Marchandisation.
Enfin, moi, mais qui a parlé de marchandisation aussi? Enfin,
vous? Vous avez parlé de marché.
J'ai dit
la médecine est un marché, vous l'avez dit.
Mais non, j'ai dit que oui, et c'est un marché à partir du moment où un patient étranger a le choix d'aller au Canada, à Berlin, dans une clinique privée ou dans un hôpital. Et moi, je préférais qu'il aille à l'hôpital. Surtout quand ce patient-là veut aller se faire soigner par le service public français. On a quand même un service public dont il faut être fier, hospitalier. C'est-à-dire, si 90% des Français aiment l'hôpital, c'est bien que ça a une signification. Si l'hôpital aujourd'hui accueille de plus en plus de patients et fait plus d'actes de chirurgie que le privé, etc., alors que c'était le contraire il y a quelques années, c'est bien que l'hôpital, il faut arrêter de faire croire que l'hôpital c'est un bateau ivre qui ne sait pas gérer, qui est empêtré dans les problèmes. Il y a des problèmes bien sûr. Mais c'est aujourd'hui quelque chose de performant. La recherche française médicale, elle est dans le public. Elle n'est pas dans le privé, elle est dans le public. L'enseignement des médecins français, c'est grâce au public.
Il n'y a pas besoin d'accueillir des patients étrangers pour faire de la recherche. Dans mon hôpital, en banlieue, on a fait une première mondiale il y a 3 ans, dans des conditions très ric-rac.
Et les premières mondiales, c'est dans l'hôpital.
Voilà, mais le chirurgien qui a fait cette première mondiale, il ne fait pas d'activité privée, lui. Il se consacre à l'hôpital public, à ses patients de Seine-Saint-Denis. Il fait de la recherche.
Voilà, on a compris, je pense, pour la réglementation. On ne vous mettra pas d'accord en tout cas aujourd'hui, sauf sur un sujet dont on a vu tout à l'heure que vous allez appeler le gouvernement ensemble. Alors justement, vous avez, cher public, des petits cartons pour départager nos invités, des cartons rouges pour Christophe Prudhomme, qui pense que c'est un danger, cet accueil des étrangers fortunés, et des bleus pour Frédéric Valtoux. Elle m'a l'air assez serré, même si, sans être daltonien, je vois plus de rouge, mais je ne sais pas si j'ai raison. Élodie ?
11 bleus. 17 rouges.
Et voilà, 17 rouges, Christophe Prudhomme. Vous voyez, l'hôpital public est sain et sauf grâce à vous.
Ah non, 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 on n'est pas sorti de l'auberge.
On n'est pas sorti de l'auberge.
Il y a besoin de réformes, mais il y a des bonnes et des mauvaises réformes.
Merci beaucoup. Merci à tous. Franck Ferrand, bonjour.
Bonjour Pierre, je vous propose une émission très appétissante aujourd'hui, puisque nous allons parler des plus vieux, des plus célèbres, des plus historiques de nos restaurants, en commençant par la Tour d'Argent.
À table avec Franck Ferrand, merci beaucoup. Il est 14h sur Europe 1. Wendy Bouchard revient lundi, bien sûr. Et à 14h, l'information, c'est Christophe Carré.